Et tout de suite, direction la librairie de Paris avec Hervé Gardette pour un grain à moudre un peu spécial. À vos côtés, l'équipe de ping-pong Mathilde et Martin.
En effet, je ne suis pas seul ce soir.
1, 2, 3.
Bonsoir à toutes et à tous. Je ne suis pas seul ce soir, en effet, mission spéciale en compagnie et de Mathilde Serrel et de Martin Kénéen. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir, Gardette.
Émission spéciale pour quelle raison, Mathilde Serrel?
Parce que nous sommes effectivement en direct et en public à la librairie de Paris pour cette journée spéciale. Pour le livre, France Culture s'engage toute la journée. Il y aura la dispute littéraire d'Arnaud Laporte et ses critiques que vous découvrirez à 21h. Mais maintenant, c'est 2 heures de fusion entre le grain à moudre et ping-pong avec des auteurs, des penseurs pour nous dire en quoi le livre et la littérature sont des guides d'évasion, de réflexion, d'affirmation et d'émancipation. Vous nous suivez avec le hashtag pour le livre sur Facebook, Twitter et franceculture.fr.
Et qu'y a-t-il au sommaire de cette émission spéciale, Martin ?
Hervé, je pense qu'on peut déjà peut-être remercier et l'accueil qui nous est fait ici à la librairie de Paris, place de Clichy à Paris. Donc on peut peut-être applaudir nos hôtes de cette librairie de Paris et nos premiers invités qui sont déjà là. On va se poser toute une foultitude de questions bizarres. Et sinon, t'as pensé à faire le plein à la librairie avant de partir en vacances, évidemment, avec Amaël Guiton et Véronique Ovaldé. On se demandera si les animaux savaient lire avec Gilles Boeuf et Benjamin Renner.
Et on va aussi se demander si la littérature est un outil de développement personnel, mieux qu'un manuel de développement personnel avec Myriam Majidi, ainsi que Corinne Peluchon. Et puis, à l'heure des algorithmes et d'Amazon, et des suggestions standardisées, on va en faire fi, on va proposer de la subjectivité, de l'échange et de la librairie comme un lieu de contre-pouvoir avec Alexandre Jardin et Emmanuel Cervera-Marzal.
Et puisqu'il flotte comme un air de vacances, vous allez sans doute l'entendre tout au long de ces presque 2 heures. Je vous propose de commencer par emprunter cette route des vacances, celle des départs, avec première étape obligatoire, bien entendu, la librairie, histoire de faire le plein, de cartes routières, de guides de voyage, de récits d'ailleurs, le plein de romans aussi, des nouveautés, ou alors ce gros et imposant classique de la littérature que vous vous promettez chaque été d'escalader avant de remettre ce défi à l'été suivant. Et pour parler de comment la librairie et comment les livres nous font voyager, 2 invités, donc Véronique Ovaldé, bonsoir. Vous êtes romancière et mon cœur transparent. Je ne vais pas citer tous vos livres, mais celui-là, il faut le citer évidemment, puisqu'il vous avait valu de recevoir en son temps le prix France Culture Télérama. Vous avez également publié Ce que je sais de Vera Candida, qui vous a valu le prix Renaudot des lycéens. Le dernier ouvrage, c'est un ouvrage écrit à 4 mains, un roman graphique, coécrit avec Johan Sfar, À cause de la vie, publié chez Flammarion, qui raconte l'histoire d'une petite fille dans les années 80 dans un immeuble parisien qui s'ennuie beaucoup et qui va faire à la connaissance d'un de ses jeunes voisins. Et pour discuter avec vous, Amaël Guiton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous travaillez à Libération, vous avez publié, c'était déjà en 2013,
Le
Diable Vauvert,
le temps passe.
Hackers, au cœur de la résistance numérique. Vous venez souvent dans Du Grain à Moudre pour parler des sujets qu'on appelle les sujets tech. La dernière fois, c'était pour évoquer les questions de piratage, qui sont encore des questions d'actualité. Mais ce soir, justement, alors on va peut-être être très loin de cet univers-là, en tout cas pour commencer notre discussion, puisque en fouillant ce matin dans ma bibliothèque, j'ai essayé de trouver quelques livres, quelques objets qui évoquent peut-être justement le départ en vacances. Et j'ai commencé par une carte routière que je déplie là pour faire un petit peu de son d'ambiance, n'est-ce pas, comme si on était au cinéma. C'est pas une carte Michelin, en l'occurrence, c'est une carte IGN de Poitou-Charentes.
Et pourquoi le Poitou-Charentes, Hervé Gardette ?
Que vous n'arriverez jamais à replier, parce que c'est le principe des cartes routières.
Voilà, en général, on essaie sur le capot et on commence un petit peu à s'énerver avec ça. Pourquoi le Poitou-Charentes ? Simplement parce que la dernière fois que j'ai acheté une carte pour partir en vacances, c'était pour partir dans cette belle région. Mais est-ce que quand on est une geek, comme vous, pardonnez-moi de vous attribuer cette fonction-là à Maëlle Guiton.
Pas de souci, j'assume.
Est-ce que ça, c'est un objet qui vous sert quand vous partez ?
Alors, la carte routière, plus du tout. Les cartes de ville, plus du tout non plus. C'est-à-dire que, pour le coup, s'il y a bien quelque chose que j'ai dématérialisé, c'est ça. Je continue à acheter des cartes, mais quand je pars en randonnée dans la montagne, parce que quand même, on n'est jamais sûr d'avoir de l'Internet et que c'est pas très agréable d'être perdu au milieu des Alpes. Après, c'est vrai que j'ai plutôt, effectivement, des logiciels de cartographie. Très, très honnêtement, C'est plutôt de ça que je fais consommation à l'heure actuelle. Ouais.
Donc, ce n'est pas un objet que vous utilisez actuellement. Vous, Véronique Ovaldé, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire de la nostalgie? Parce que c'est peut-être quelque chose qui a disparu de votre quotidien.
Non, en fait, les cartes routières, en fait, je n'en ai aucun usage, n'ayant pas de voiture et du coup faisant très peu usage des routes.
Mais on n'a pas besoin d'avoir une voiture pour s'acheter des cartes routières.
C'est vrai. C'est pour ça qu'en fait, quand je vais dans une ville... et souvent une ville étrangère, afin de mieux la comprendre, mieux l'appréhender, en fait, je m'achète une carte tout de suite de cette ville. J'ai besoin de savoir où je suis et j'ai besoin en fait que ça soit sur... Alors je suis un vieux dinosaure, hein, mais j'ai besoin que ce soit sur un papier devant moi. Je sais où je suis, je sais où je veux aller et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai besoin de me savoir au milieu d'un espace et cet espace, ce territoire, il ne peut être que sur un bout de papier.
Oui, et sur un bout de papier qui peut être assez large, parce que quand on est sur un écran de smartphone, Amel Guiton, c'est quand même limité. Si on ne s'en sert pas forcément en voyage, on peut aussi les regarder avant de partir. On a une meilleure vision peut-être de l'espace.
Il y a quand même quelques trucs hein, que j'achète physiquement, et notamment, c'est vrai que je ne vais jamais dans une ville étrangère sans un guide du routard, hein, pour ne pas le citer. Enfin, il y a un côté tradition comme ça, dans lequel il y a toujours au moins une carte de ville qui fait qu'on arrive à peu près à prendre, conscience de l'espace, ne serait-ce que de la forme qu'a la ville, parce qu'il y en a qui sont très resserrés, d'autres qui sont très étendus. Donc on arrive effectivement à se repérer. Après, c'est vrai que dans le détail pour les déplacements, ça va être plutôt le smartphone. Mais ce qui peut avoir par ailleurs d'autres, ça peut poser d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'on devient quand même extrêmement dépendant, par exemple, de l'accès à Internet ou du GPS ou enfin voilà d'éléments de réseau. Donc effectivement, enfin moi je sais que quand je suis, je sais pas à Berlin ou à New York sans Internet, je suis très 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 embêtée. Enfin c'est donc on devient effectivement dépendant de la technologie. Ça j'en ai parfaitement conscience. Ouais.
Alors, il y a cette idée aussi de la préparation du voyage qui devient un temps beaucoup plus court, alors qu'avant, il y avait peut-être toute une préparation de cartes, de repérages et tout. Donc, ça change aussi l'état d'esprit dans lequel on voyage, l'arrivée du smartphone, l'utilisation des applications. Et on se rend compte que finalement, elles ont été divisées par deux, les ventes de cartes avec l'apparition du GPS au début des années 2000. Et ensuite, ça se maintient. Donc, est-ce que la carte, ça reste pas encore un outil de hasard par rapport au balisage numérique, Amel Guiton?
Si, probablement. Puis ça, alors après, je ne sais pas, ça correspond peut-être aussi au tempérament des uns et des autres. Moi, j'imagine que le smartphone me convient bien parce qu'il y a un côté, on fait sa valise et puis le soir même, où on est dans un train ou le lendemain matin dans un avion. C'est vrai que préparer un voyage sur la longueur, l'anticiper, oui, je pense que le rapport au papier a encore un sens dans ce cadre-là. Ouais.
Alors je vous rassure, on va peut-être pas faire toute la discussion sur les cartes routières, hein, parce que c'est pas le seul élément qu'on peut utiliser quand on part en voyage. Mais peut-être encore une petite question, Véronique Ovaldé. Moi, je me disais, si j'étais écrivain, si j'étais romancier, moi, j'y verrais une source formidable d'inspiration. C'est-à-dire, quand on lit des noms de lieux, ça peut donner aussi peut-être des idées. Ou en tout cas, quand on cherche des noms de lieux qu'on veut fixer comme ça dans un roman, est-ce que c'est justement un outil qui peut vous servir de dire, tiens, bah voilà, je situerai bien l'action de mon prochain livre à Beauvais-sur-Matha, tiens, par exemple, puisque ça se trouve dans cette région de
Poitou-Charentes. Alors, vous savez, en fait, moi, c'est l'impression que ça me donne, c'est que c'est vraiment une sorte d'exercice à contrainte, vous savez, un peu pour les ateliers d'écriture. Alors, imaginez que vous êtes boulangère à Saint-Sulpice-de-Cognac. Donc, en effet, j'entends bien que ça peut être déclencheur, mais j'avoue que moi, ça ne me fait pas cet effet-là du tout, en fait, les cartes. J'aime beaucoup savoir dans quel espace je suis, dans quel espace j'existe, mais les noms, en fait, ne me font pas beaucoup d'effet. Bon ben, je préfère les inventer.
Je suis mal parti pour être romancier.
Véronique Ovaldé, on entendait Amel Guiton assumer qu'elle est paniquée quand il n'y a pas de Wi-Fi dans l'espace où elle se trouve en vacances. Donc même quand elle va faire de la randonnée, elle espère trouver du signal et du réseau. C'est un peu à l'image de notre époque où on a peur d'être perdu quand on part en voyage. Or, j'ai l'idée que peut-être dans la littérature, dans le roman, le plaisir... c'est de se perdre, mais puisqu'on en est à faire son bagage avant de partir en vacances pour celles et ceux qui ont la chance de le faire cet été, qu'est-ce que vous mettez comme littérature dans vos bagages? On aura compris que c'est pas des ouvrages de Loulipo à contrainte, mais alors est-ce que c'est de la littérature dans laquelle on se perd, des livres foisonnants comme ça énormes qu'on rêve de pouvoir enfin lire?
Bah oui, parce qu'en fait, évidemment, on a un peu plus de temps, donc moi je sais que j'ai eu un été, l'infinie comédie de Foster Wallace, et j'ai un souvenir extraordinaire de cet été-là, en Corse, sous la lumière brûlante de de cet été-là. Et j'étais avec l'Infini Comedy tous les matins. Je me levais le plus tôt possible parce que j'ai pas mal d'enfants autour de moi et pas mal de copains dans mes heures de mes enfants. Donc c'est ça, il y a beaucoup de bruit dans la maison. Et donc je me levais très très tôt pour pouvoir lire l'Infini Comedy. Et ça m'a fait ça avec Cabré, avec Confiteor, ça m'a fait ça avec 2666. Enfin voilà, les gros gros livres qui vous permettent en fait pendant l'été, vous passez, vous êtes accompagné pendant tout un été par voilà, vous êtes dans le, vous êtes à l'intérieur de l'esprit de cet auteur, et donc c'est extrêmement agréable. Enfin pour moi c'est fondamental. Donc chaque été j'ai
été agréable chez Bolaño, vous êtes sûr?
Ouais, j'adore. Et chez Foster Wallace, ouais.
Et chez Foster non, Wallace, je suis sûr.
Mais alors le programme de cet été, vous l'avez déjà
établi? Alors mais non, justement, j'ai pas trouvé encore le gros livre. Alors parce qu'en plus il y a un danger, c'est évidemment vous prenez le gros livre, mais si il fait quand même un kilo, vous dites si jamais ça ne marche pas, et ben vous allez être très très malheureux. D'où le fait que je choisis toujours les endroits où je vais en vacances. Il faut qu'il y ait une librairie parce que comme ça je me sens un peu plus à l'aise, je me dis bon bah si vraiment j'aime pas, eh ben je peux toujours en choisir un autre. Mais donc cet été je cherche mon gros livre.
Amel Guiton, est-ce que ce qui vaut pour les cartes routières et les guides de voyage, ça vaut aussi pour la littérature, si tant est que vous en lisiez particulièrement pendant les vacances, ou bien est-ce que vous partez là avec des vrais livres physiques en vous disant peut-être que, alors moi là j'ai sous la main, parce que comme je savais qu'on était en public, je me suis dit tiens on va en profiter, ça fait un peu télé, je suis venu avec le coffret À la recherche du temps perdu de Marcel Proust.
Mais il est vide.
Jean-Christophe, oui, il est vide parce qu'il est lourd, donc je voulais un peu m'alléger quand même. Jean-Christophe Millois de la librairie de Paris me disait me rappeler tout à l'heure qu'il fallait jamais dire qu'on allait lire La Recherche, mais qu'on allait relire Proust, bien entendu, l'été, parce qu'on l'a déjà tous lu en intégralité. Vous, ça se passe comment pour vous, Amel Guiton?
Ceci dit, je l'ai aussi lu en intégralité, mais je ne l'ai pas encore relu, voyez-vous. Donc voilà, j'imagine que ça fait très chic.
Non, ça peut être l'objectif pour l'été, justement.
Non, parce que je me souviens, quand je l'avais lu, ça ne m'avait pas pris que des vacances. Hein. Ça a été plutôt sur plusieurs mois, parce qu'il faut aussi un peu respirer quand on se lance dans ce genre d'aventure. Non, plus sérieusement, alors effectivement, c'est un pan sur lequel je n'ai pas complètement basculé dans le numérique, mais ça dépend de ce que j'emmène. Enfin, ça, j'ai aussi une liseuse. Et alors, ce qui va être essai ou effectivement des livres consacrés à mon champ d'expertise professionnelle, je vais plutôt les acheter en numérique et les embarquer sur une liseuse, parce que c'est vrai que ça a quand même l'avantage de la légèreté.
Je rappelle que la liseuse, hein, ça n'est pas quelqu'un qui vient avec vous pour vous lire des livres. Hein. On est d'accord.
Que j'aimerais bien parfois. en revanche, sur le roman, ouais, il y a quand même pas le même plaisir. Et alors, ça dépend combien de temps je pars, hein, mais si c'est effectivement quelques jours, je me débrouille toujours pour passer au moins dans la librairie d'une gare, m'acheter un polar pour le voyage en train. Ça peut effectivement être, je sais pas, une anthologie de Simenon quand c'est plutôt pour 15 jours ou 3 semaines. Mais il y a quand même, je fais partie des gens qui ne se sont toujours pas défaits de ce plaisir du livre qu'on a dans les mains, qu'on emmène avec soi au lit, y compris
on écrit,
dans la, fait. Y compris même quand, enfin voilà, quand on prend un bain ou quand on prend son petit déj. Enfin, moi, je trouve
sur,
le, que, ouais.
sur lequel on écrit, vous dites, Véronique Ovaldé?
Bah oui, j'écris tout le temps sur les livres papier. L'avantage, c'est qu'en fait, vous avez votre stylo à la main. Moi, mon marque-page, c'est un stylo.
Mais c'est et pas donc, un sacrilège, ça, pour un écrivain, que de savoir qu'on peut écrire sur son livre?
Surtout pas. Non, c'est parfait. Non. Alors, j'ai vu l'autre fois une femme dans le métro, il y a 7 semaines, qui avait en fait un morceau de livre, en fait, et elle l'avait découpé. Et je lui dis, mais c'est amusant parce que c'était trop lourd. Elle m'a dit, oui, c'était trop lourd, en fait. Et donc, en fait, elle prenait des morceaux, en fait, du livre qu'elle détachait. Je trouve ça très drôle. Alors, moi, j'avoue, j'ai une relation très, on va dire relax, hein, avec l'objet livre. C'est-à-dire qu'à la fois, j'aime ça parce que c'est simple, c'est pour moi, c'est une relation d'une immédiateté. Et puis, en plus de ça, je peux en effet à la fois noter plein de choses qui se passent, que je vois, que j'entends, et à la fois noter évidemment tous les petits passages que j'aime dans un livre. Et ça me permet, moi qui déteste relire les livres, au moins je relis les petits passages que j'ai aimés.
Alors, on parle de la littérature qu'on peut emmener en voyage, mais aussi la littérature qui fait voyager. Bien sûr, c'est le principe de vos romans, Véronique Ovaldé, roman graphique À cause de la vie avec Johan Sfar, ou encore, si on pense à Paloma et Le vaste monde, il y a toujours cette idée de quitter, de partir la contingence, de quitter un endroit. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des livres qui vous ont fait quitter ce que vous pensiez être votre réel, qui vous ont aidé à quitter votre présent, que vous le transmettez aujourd'hui en tant qu'auteur?
Alors, je ne sais pas si ça vient de là, mais on va éviter ce genre d'histoire là maintenant, mais en fait c'est simplement que je pense que en effet la lecture pour moi au départ c'était vraiment l'idée de sortir de l'endroit d'où j'étais, donc ça il n'y avait aucun doute là-dessus. Je ne pouvais pas lire une histoire qui se passait à Rosny-sous-Bois, là où j'habitais quand j'étais môme. Ça ne pouvait se passer qu'à l'autre bout du monde, et c'est comme ça qu'en fait ça, je pouvais exister autrement et ailleurs. Donc les livres que j'ai écrits, tous les livres que j'ai écrits sont toujours dans un déplacement, qu'il soit temporel ou géographique. Après, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup. Vous savez, ce livre de Pierre Bayard qui s'appelle Comment parler des lieux où on n'a pas été, je crois.
Ah ben, je crois qu'il y a les livres qu'on n'a pas lus.
Oui, bien sûr. Et les lieux où on n'a
même pas relu.
Et c'est intéressant parce qu'en fait, il raconte des anecdotes géniales, du genre Gide qui rencontre Mallarmé dans la rue. Il admire Mallarmé et Gide lui file son dernier bouquin qui s'appelle Voyage au Spitzberg. Mallarmé est un peu décontenancé. Et puis trois jours après, il se recroise dans la rue. C'est l'époque où on croisait Gide et Mallarmé dans la rue. Hein. Et en fait, Mallarmé lui dit « Oh, j'ai cru que vous y étiez alliés. Allez. » Et donc cette idée, en fait, de l'impossibilité de rendre compte d'un lieu où on a vraiment mis les pieds et de la nécessité de l'inventer, moi me rend très heureuse et me subjugue. Pour moi, c'est exactement ça. D'une part, il y a ça, et d'autre part, ça me permet la littérature. Quand je pars en voyage, comme je suis partie en Colombie il y a pas très longtemps, comment je prépare un voyage en Colombie? En fait, je vais lire des écrivains colombiens. Donc, je vais lire Santiago Gamboa. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe en Colombie avec des livres d'Evelio Rosero qui nous parlent de tous les problèmes de la Colombie, de ce qu'on connaît, hein, des narcotrafiquants, des militaires, les paramilitaires, enfin, toutes ces instances armées qui se bagarrent. Si je lis un article dans Courrier International, je serai moins impliquée, en fait, que si je lis un roman qui me parle de ça, de la littérature. La littérature me permet, en effet, de vivre doublement.
Alors, puisque ce soir est dans cette première partie de notre émission du grain à poudre ou ping poudre, en compagnie d'Hervé Gardette et de Mathilde Serrel, évidemment, et qu'il est question de faire le plein en librairie avant de décoller ou de partir sur les rails ou le pouce levé sur la route. Amaël Guiton, on le sait, vous êtes journaliste à Libération. Hervé rappelait que vous avez signé Hackers au cœur de la révolution numérique et que vous êtes l'experte tech du grain à moudre régulièrement sur les ondes de France Culture. Puisqu'on parle des lieux où on ose s'aventurer grâce au livre et qu'on connaît mieux grâce au livre, vous, ce que vous choisissez comme livre à mettre dans votre besace ou dans votre valise anti-choc, ce sont des livres qui parlent des lieux où vous êtes une des seules à être allée, dans le dark web, des histoires de pirates informatiques.
Ça, pour le coup, c'est pas vraiment un lieu. Enfin,
c'est des cyber-thrillers que vous lisez avec plaisir.
Non, bah, c'est vrai que j'ai un tropisme pour le polar depuis très très longtemps, mais probablement parce que le roman policier parle beaucoup de la société, finalement. Et qu'en lisant, oui, un polar danois ou un polar français ou un polar mexicain, on en apprend énormément sur ces sociétés-là. Après, je veux dire, on a tous nos névroses. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à aller dans quelque endroit que ce soit en touriste absolu. Je me débrouille en général pour coupler ça avec un reportage ou enfin quelque chose de manière à me sentir peut-être plus en prise finalement, à être avec le lieu, à rencontrer forcément des gens, à ne pas être juste dans une espèce de contemplation, mais finalement à être actrice. Donc,
c'est aussi parce que ça vous coûte moins cher, du coup. Voilà, hein, c'est sous couvert de reportage, vous passez aussi des vacances.
Et puis vous pouvez écrire et pas seulement lire, du coup.
Non, pas forcément, parce que par ailleurs, je l'ai déjà fait aussi en forme de background, sans être forcément sans y aller pour un média. Hein. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, en fait, avec la posture juste de la visite. Enfin, je trouve
un bon cyber roman, alors, puisque vous en avez lu quelques-uns.
Il y a La Toile de Sandra Lucbert qui est sortie cette année, qui pour la première fois présente le hacker de manière moins caricaturale, et c'est quelque chose que vous avez pu justement souligner à travers les médias, les politiques, c'est quand même un problème. Donc pour la première fois, c'est des figures ambiguës. Et une question peut-être, est-ce que c'est intéressant pour vous dans ce livre, La Toile de Sandra Lucbert, cette façon de représenter la pensée intérieure au XXIe siècle, celle qui est numérique justement, et qui est en interface avec la réalité?
Effectivement, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, hein, en dehors même du dispositif lui-même, qui je trouve fonctionne très bien, c'est effectivement rendre compte de ces personnages qui sont effectivement très très ambigus, de ce que ça veut dire aujourd'hui la surveillance, de ce que ça veut dire aujourd'hui les données, l'accumulation des données, aussi des manières dont on trouve des espèces de chemins de traverse, parce que finalement ces ces personnages cherchent les failles de la société dans laquelle ils vivent et cherchent à les, alors soit effectivement à les utiliser à leur propre profit, hein, ça c'est le couple démoniaque de la toile, soit à en faire des outils de lutte et de subversion, comme on le voit avec ce qui est expliqué de ce qui se passe à Gezi et de la manière dont aujourd'hui les gens qui maîtrisent les réseaux, qui maîtrisent les outils techniques, peuvent aussi se mettre au service de on va dire de causes politiques, hein, pour aller assez vite, ouais.
Un tout dernier petit mot, Véronique Valdé, parce qu'on le savait, hein, cette émission va passer évidemment très vite. Juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des lieux où vous vous interdisez d'aller parce que vous les avez imaginés et que vous risqueriez peut-être d'être déçu, de se dire bah, si j'y vais finalement, je vais peut-être être déçu parce que ça ne correspond pas du tout à l'image que je m'en fais.
Ça n'a aucune importance en fait, ça. C'est plutôt dans l'autre sens. J'aimerais pas du tout aller dans des endroits en me disant tiens, je vais y aller et puis en plus j'écrirai un texte dessus. C'est pas du tout mon genre, on va dire. En fait, l'Amérique latine, j'ai beaucoup écrit dessus en ayant entendu parler, en ayant entendu des gens très proches de moi me raconter des histoires sur l'Amérique latine, en ayant beaucoup lu. Et en fait, je ne suis allée la première fois au Chili il y a seulement, je pense, 5 ans. Et donc, j'avais déjà beaucoup publié sur l'Amérique latine. Donc, en fait, c'était... Et quand j'y suis allée, en fait, finalement, ça ressemble quand même assez à ce que vous avez imaginé. Parce que, évidemment, vous savez très bien, les lieux qu'on a envie de voir, eh bien, ils ressemblent à ce qu'on a envie de voir.
Ben merci beaucoup Véronique Valdé et Amaël Guiton d'avoir participé à cette première discussion, mais ça n'est qu'un début. On continue, Martin Kenner,
on vous applaudit, vous êtes d'accord. Merci pour votre participation. Ouais.
On sent que vous avez l'habitude de faire des émissions publiques tous les deux. Hein.
Et c'est un plaisir, on est entouré de public.
Et on ne se lasse pas, de lancer les applaudissements, c'est un petit bouton qui est absolument merveilleux. Encore. Non. Vous voyez, silence.
À suivre, eh bien, on va se poser la question de savoir et si les animaux savaient lire avec Benjamin Reiner, réalisateur de films d'animation et dessinateur, et Gilles Boeuf, biologiste.
Ping-pong.
Du grain.
À moudre.
Les spectateurs sont là, dépêchez-vous.
Attends, je suis pas prêt. Bonjour, cher public. Nous allons ce soir vous interpréter 3 pièces. Mesdames, messieurs, voici
le grand méchant renard.
Ah non, c'est la 3e fois cette semaine, ça suffit.
Non mais c'est parce que j'ai faim en fait.
Je m'en fiche.
Pourtant j'ai tout fait comme toi.
C'est-à-dire?
Mais tu sais, le truc que tu fais là.
Ah ça.
Bonsoir Gilles Boeuf.
Bonsoir.
On vient d'entendre un renard, des poulets me semble-t-il. Est-ce que s'il parlait, il parlerait comme ça?
Et d'abord, il faut bien voir que... Oui, parler, c'est la vraie question. Est-ce que les animaux parlent? Ils communiquent entre eux, est-ce qu'ils parlent? Et après, une fois qu'on parle, effectivement, on peut écrire. On peut lire que c'était quelque chose est écrit auparavant. On ne peut pas lire des choses qui ne sont pas écrites. Et pourquoi pas, finalement, ça nous ferait plaisir d'imaginer qu'ils puissent le faire.
Alors, je vais vous laisser peut-être y réfléchir encore un tout petit peu pendant quelques secondes, parce que je vais commencer par faire ce qu'on fait normalement, c'est-à-dire vous présenter. Gilles Boeuf, vous êtes biologiste, professeur à l'université Pierre et Marie Curie. L'homme peut-il accepter ses limites? C'est le livre qui sort aujourd'hui. Vous avez coordonné, qui sort aux éditions...
Coué.
Vous êtes par ailleurs président du Centre européen d'excellence en biomimétisme de Senlis. Le biomimétisme, ça consiste à prendre des systèmes biologiques comme modèle pour des innovations. Et il se trouve que justement, notre deuxième invité, lui, prend le monde animal comme modèle au sens pictural du terme, presque, pour raconter des histoires. Et c'est Benjamin Reiner. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur de films d'animation. Ce qu'on a entendu, c'est un extrait de votre film qui est en salle depuis une semaine, Le grand méchant renard et autres contes, qui raconte notamment l'histoire d'un renard qui ne sait pas faire peur aux poules, qui va élever des poussins pour pouvoir les manger plus tard. Mais évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. C'est tiré d'une bande dessinée qui a été publié chez Delcourt en 2015. Vous utilisez beaucoup les animaux dans les récits, dans d'autres films d'animation que vous avez fait, et donc dans cette bande dessinée. Pourquoi est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi je prends comme personnage des animaux plutôt que des êtres humains?
Ouais, alors il y a une raison un peu basique et bête, c'est que j'avais beaucoup de mal à dessiner les humains en fait à la base, c'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal à dessiner les caricatures, les trucs comme ça. Et un jour je suis allé au zoo en cours de croquis et là j'ai réalisé que j'adorais dessiner les animaux en fait. J'ai commencé par les crocodiles parce que c'est les seuls qui bougent pas en fait, donc c'était assez simple à dessiner. Mais après j'ai vraiment pris plaisir à dessiner tous les
quand
singes.
Quand ça bouge, c'est dangereux.
Oui, ouais, bah oui, ouais, c'est vrai que vaut mieux pas. Enfin, j'étais pas aussi près que ça. Hein. Je prenais quand même mes distances, mais et en fait au-delà de ça, narrativement en fait j'ai toujours été très touché par les fables de La Fontaine, les contes du chat perché, toutes ces choses-là où on a des petites sociétés humaines comme ça, représentées par des animaux qui vivent leur vie et tout, et qui représentent justement l'humanité, mais par le biais d'animaux. Et je trouve que ça permet vraiment de parler de l'humain, mais sans y coller des trucs justement culturels. C'est-à-dire qu'on va pas dire, voilà, je parle d'un Américain, d'un Africain, de n'importe quoi. Enfin, voilà, on va vraiment parler de l'humanité globale au travers des animaux, quoi.
Quand on a eu l'idée de faire cette thématique qu'on a intitulée donc Et si les animaux savaient lire, c'était parti aussi d'un constat, de se dire que il y a eu quand même une figure qui est une figure dominante, qui est évidemment pas exclusive, mais dans les livres, ce sont les animaux. C'est comme ça, par exemple, que quand on est enfant, on entre en général dans la lecture. Gilles Boeuf, est-ce que vous comprenez finalement pourquoi les animaux sont si présents, notamment dans la littérature jeunesse?
Ah, oui, bien sûr. Regardez les enfants. Je raconte souvent l'histoire d'un bébé humain à la naissance. Quel est son premier contact avec la vie de la Terre? C'est la rupture de la poche des os de sa maman. À ce moment-là, des bactéries, bien avant les animaux, qui sont extérieures, vont aller le contaminer. C'est le premier contact biologique. Et ensuite, bien sûr, le gamin raconte des histoires dès le départ, même si on ne lui demande pas ces histoires. C'est la différence avec l'animal. Et l'animal est fondamental partout. Et regardez la grotte Chauvet, c'est la première manifestation qu'on ait, en fait, d'humains dessinant du vivant. C'est 37 000 ans. Il est deux fois plus vieux que Lascaux. Il y a simplement quatre animaux à Lascaux. Il y en a 14 à Chauvet. Et c'est merveilleux. Qui dessine comme ça aujourd'hui? Des animaux. Parce que dans l'imaginaire des gens qui ont fait ça, ils racontent des histoires, ils leur rappellent des choses qui les rapprochent un peu du système terrestre.
Benjamin Reiner, en effet, quand on a décidé de mettre en place cette émission, l'intitulé général de cette journée sur France Culture, c'est pour le livre. Et étrangement, Hervé Gardette a insisté pour qu'on fasse ce débat. Voilà. Et si les animaux savaient lire, donc on a pressenti qu'il ressentait l'appel de la forêt et qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui l'animait, qu'aussi sans doute il avait envie de partir en vacances avec Gilles Boeuf et il n'osait pas le lui dire tout de suite, donc il fallait le
alors
réinviter.
Alors détrompez-vous, on a prévu de partir en vacances ensemble.
Voilà. C'est parfait.
Dans le Poitou-Charentes, si vous avez encore, tout suivi.
Mais alors si on entre dans la lecture et peut-être dans le dessin, pour ce qui est de votre cas, grâce aux animaux, il y a des livres jeunesse, des livres illustrés, il y a des contes qui mettent en scène des animaux qui sont parfois saignés, les pauvres, et qui comptent dans votre devenir dessinateur, scénariste, auteur de films d'animation qui aiment les animaux anthropomorphiques.
Est-ce que moi j'ai des références de livres avec des animaux? Moi j'en ai énormément, enfin comme je disais les contes de La Fontaine, je peux pas nier aussi que même tous les Disney en fait, les vieux Disney, c'est avec Mickey, Donald, tout ça, enfin c'est tout bête mais on a tendance à oublier que c'est des animaux en fait.
On parle de livres, alors si c'est livre, vous pouviez lire le journal de Mickey
mais,
en même temps.
Mais Mickey, moi je lisais les Picsou, les aventures de Picsou de Karl Barks et tout, j'adorais ça en fait, je trouvais ça vraiment génial. Et voilà en fait, et c'est marrant parce qu'on les utilise comme personnages et c'est vrai qu'on se pose même plus la question si c'est des humains, des trucs comme ça. Même le truc tout bête d'avoir les incohérences que ça crée, d'avoir Dingo, c'est ça? Oui, c'est Dingo qui joue avec Pluto. Ouais. C'est tous les deux des chiens en fait. Enfin, des petits trucs comme ça. Enfin, voilà, ça. Moi, j'aimais beaucoup ce genre de choses. Et voilà, faut. Enfin, voilà. Et après, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a, comme je disais, les contes du chat perché, les fables de La Fontaine. Ça reste toujours le roman de Renard aussi. Ça, c'était un truc très très fort. Quand j'étais petit, j'avais vu le vieux film de Stanislas Starevitch, je crois, qui était fait en marionnette. Ça ressemble beaucoup au Fantastic Mr. Fox qui a été fait plus tard comme ça. Et enfin, c'est assez fascinant.
Par Wes Anderson.
Ouais, par Wes Anderson.
Gilles Boeuf, ce sont les animaux des livres que vous lisiez quand vous étiez jeune, qui vous ont donné envie de vous y intéresser ensuite et d'en faire votre métier?
Bien sûr. Qui dans la salle n'a pas eu comme premier livre un abécédaire avec les animaux? Hein? Alors K c'est koala, c'est compliqué. W c'est wapiti, hein, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et c'est vrai qu'on regarde ça depuis toujours en fait. Et c'est vrai que l'enfant dès le départ est touché. Regardez les relations qu'il y a entre l'enfant et l'animal, entre des gens aussi qui ont des handicaps particuliers. On démontre qu'on arrive à beaucoup mieux les resocialiser lorsqu'il y a un contact avec l'animal. Alors pas que la forêt, il y a aussi l'océan. Et c'est vrai que c'est fondamental dans la vie de l'humain. L'humain a vécu au début dans un environnement animal. C'est pas facile au début. Hein. Si vous pensez à Lucie, il y a 3 millions d'années, chercher un morceau de viande sur un cadavre de zèbre abattu par des lions une semaine avant, il y avait les hyènes qui étaient passées par là et les vautours, c'était pas très simple. Hein. Et il y a toujours eu chez l'humain une certaine relation à l'animal difficile. On leur fait payer toujours ça aujourd'hui aux animaux, hein, cette peur ancestrale. Puis après, c'est passé par la domestication. Il y a 12 000 ans, le chien 35 000 ans, la vache il y a 8 000. Et c'est vrai que là, l'humain va commencer à avoir une promiscuité avec les animaux qui vont faire que les relations vont bien changer.
Enfin, juste un mot, vous dites on leur fait encore payer ça. Ça dépend à quels animaux. Le renard, par exemple, de Benjamin Renner, c'est un renard qui n'est pas du tout méchant. Il aimerait beaucoup l'être, mais il ne l'est pas. Il se fait...
J'adore.
Il se fait coacher par le loup qui finalement le trouve nul en prédateur.
Et violenté par des poules. Ça existe ça en vrai? Ça pourrait exister, un renard qui se fait enquiquiner par des poules?
Oui, tout existe. On a vu des toutes petites belettes face à un gros prédateur qui arrive à se débrouiller contre. La foi d'une maman qui devant ses bébés peut amener à déplacer des montagnes. Alors, le renard qui voudrait être méchant, qui ne l'est pas. Alors, à un moment, c'est même pire parce que j'ai parcouru l'ouvrage de Benjamin tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est un oiseau qui le mange, qui dit je préférais être mangé par quelque chose de macho et de costaud que par un nul. Il le bouffe. Donc, c'est vrai que on a tous envie de ça. Et des relations animales complètement insolites où effectivement un guépard va lécher un impala, par exemple. On a sur Internet en ce moment, on a plein d'images incroyables. Les relations chien-chat aussi, alors que normalement ça se passe pas si bien que ça. Tout peut exister finalement.
Mais justement, tout peut exister, mais à quel temps ça existe? Dans quelle époque ça existe? C'est ça qui est intéressant aussi. Pourquoi tout d'un coup le grand méchant renard de Benjamin Renner arrive? Pourquoi est-ce qu'on réinterroge la figure du prédateur? Il y a une multiplication d'ouvrages sur les animaux qui est quand même significative dans cette année 2016-2017. On n'a pas arrêté de parler de l'animal. C'est un peu le héros littéraire de l'année.
Vous rappelez le gros livre Révolution animale qu'on a sorti il y a quelques temps? Si vous voulez, c'est... Maintenant qu'on a fait des grandes expéditions naturalistes partout, y compris dans l'océan, on se rend compte que finalement, quand on modélise ces milieux particuliers, il y a beaucoup plus de coopération et de symbiose dans le monde vivant que d'attaques ou de prédateurs. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que quelquefois, le prédateur, il ne prédate pas parce qu'il a déjà mangé, parce qu'il pense à autre chose, et il a des relations assez curieuses avec quelque chose qui devrait être une proie. Et ça, on aime beaucoup ça. Pour ça, moi, j'aime bien le grand méchant renard qui n'est pas si méchant que ça.
Dans les nombreux livres, effectivement, qui sont sortis autour des animaux cette année, il y en a un, Benjamin Renner, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, chez Jean-Claude Lattès, qui s'appelle « Dans la peau d'une bête » de Charles Foster. C'est un scientifique britannique qui s'est mis dans la peau d'animaux sauvages, notamment dans la peau d'un blaireau, en essayant de vivre exactement de la même manière pour savoir finalement ce qu'il pouvait ressentir. Je le disais, est-ce que Benjamin Renner pour écrire l'histoire
alors pas comme un blaireau mais comme un renard. Non mais en tout cas l'exemple blaireau c'est en tout cas je trouve hein,
Non, comment est-ce que vous vous êtes documenté mais est-ce que vous l'avez fait pour écrire sur un renard? Est-ce que vous, alors, justement, vous avez un peu cherché des informations? Est-ce que vous avez essayé de vivre justement dans un terrier parce que voilà?
Non, très franchement, pour l'histoire du renard, non, je me suis vraiment, pour être très franc, c'est plus une référence à, quand je parlais, c'était de la métaphore de l'humain, donc c'était vraiment une référence à mon adolescence, à des choses comme ça, d'un renard. Enfin, moi, quand j'étais ado, j'étais pas du tout viril, j'étais pas du tout le mec, quoi. Enfin, il fallait que je sois le mec, parce que je voyais qu'un mec dans les films, c'était un gars qui aimait se battre et tout ça. Et j'étais l'opposé de ça, et je voyais bien qu'on attendait ça de moi, mais enfin, que les autres dans la cour de récré attendaient ça de moi, et moi, j'arrivais pas du tout. Et j'avais beau essayer, ça empirait, c'était de pire en pire. Et finalement, le renard, c'est un peu la même chose, quoi. Je me suis plus basé sur la figure du conte du renard qui est censé être rusé, qui est censé être méchant, qui est censé être cruel et qui arrive pas. Il a beau essayer, il y arrive vraiment pas, quoi. C'est ce qu'il aimerait le plus au monde, mais et tout le monde a un peu pitié de lui, quoi. Et c'était un peu mon cas à l'école. Enfin voilà, c'est un gros aveu psychiatrique que je suis en train de faire maintenant.
Mais c'est pour ça, allongez-vous. Voilà.
Gilles Boeuf, on est ensemble à la librairie de Paris dans cette journée pour le livre. Moi, ce qui m'est apparu quand on a commencé à se pencher en équipe sur cette question, avec nos cerveaux reptiliens, j'imagine, à propos d'animaux, c'est que la lecture était peut-être le propre de l'homme.
Oui.
Et alors.
Oui, mais tout à l'heure, je le disais.
C'est ce qui différencie fondamentalement l'homme de l'animal ? Ou l'animal lit-il aussi ?
Bon, moi j'ai travaillé longtemps sur les chimpanzés en Ouganda, par exemple. Je les regarde vivre. Ils font pratiquement tout ce qu'on fait. La seule différence, ils ne parlent pas. Ça, c'est une clé fondamentale. On a appris à parler, à écrire et donc à lire par la suite. Ça, c'est une différence qui est fondamentale. Ils communiquent encore une fois, mais ils ne parlent pas. Et surtout, ils vont préparer des outils pour certains. Pour moi, c'est une grosse différence. Je vais voir un chimpanzé qui va mettre une demi-heure à préparer une brindille pour attraper un termite. Il calcule tous les angles, il prend sa termite et il laisse son outil par terre. Je lui crie, mais reprends-le! Et voilà. Alors que les humains, depuis 2 millions d'années, faisaient du beau biface, bien travaillé, qu'on se passait de famille en famille, de père en fils, et ce biface racontait l'histoire. Jusqu'à 50 000 ans, on n'avait que ça. La première grosse différence après, ça va être l'arme de jet qui va tout changer. Dans la relation à l'animal, on invente le propulseur, l'arc et la flèche, la lance. Et là, on change parce qu'on tue à distance. Je dis souvent aux chasseurs qui m'énervent souvent, je vous donne un biface. allez me tuer un sanglier avec, croyez-moi, le sanglier a ses chances. Et ça a changé beaucoup de choses, l'arme de Jeff, finalement, dans la relation de l'humain à l'animal, qui s'est vu dominateur, qui s'est vu maître du système, qui a commencé à domestiquer. Et ce qui mérite, pour terminer sur ces questions de le regard qu'on a à l'animal, c'est qu'on sépare toujours fondamentalement les domestiqués des autres. Ça n'a pas de sens. Et c'est là, effectivement, qu'on a un vrai combat aujourd'hui de la relation de l'homme à l'animal. Donc, au départ, une répulsion parce qu'ils nous ont dominés physiquement pendant un certain temps. Dès qu'on a inventé ces armes de jet, ça a tout changé. Et aujourd'hui, on leur fait payer dans l'autre sens. Donc, moi, le grand méchant renard, j'aime beaucoup. Et pour revenir au renard, c'est comme un des premiers romans de l'humanité, c'est comme le roman de Renard. Hein. On remonte très
Goupil,
loin.
Goupil s'appelle Renard et c'est pour ça qu'on dit Renard.
Et c'est pas par hasard, je crois.
Benjamin Renard. Oui. Non, je pensais que vous vouliez réagir. Non, sinon, j'allais peut-être apporter un peu de contradiction à Gilles Boeuf. C'est-à-dire que, certes, dans la vraie vie, pour l'instant, on n'a pas encore croisé d'animaux qui savaient lire. Mais par contre, dans justement la fiction, là, il y a des animaux qui savent lire. Et il y en a un qui sait lire, en tout cas qui fait semblant de lire. Je ne sais pas s'il lit vraiment, c'est le chien de garde qui est dans le poulailler, qui fait sa sieste avec un journal sur la tête. Moi, j'aime beaucoup ce passage.
Oui, puis même j'aime bien le faire lire. En fait, il y a même dans le livre, il lit un livre, c'est l'évolution, enfin la théorie de l'évolution de Darwin qui lit.
Le grand méchant renard, c'est aussi une bande dessinée qui a été primée à Angoulême.
Et du coup, voilà, ça m'amusait beaucoup que ce soit un grand lecteur qui adore lire des livres. Que moi j'aime lire en fait personnellement. Donc voilà, que on partage cette passion avec ce chien. Ouais.
Alors justement, on voit à quel point finalement vous transposez aussi peut-être ce qui est de votre personnalité, de votre histoire dans les personnages. Qu'est-ce que vous y mettez du coup de typiquement animal ? Est-ce que vous, là aussi c'est une question, une réflexion que vous êtes déjà faite ?
Alors c'est pas forcément une réflexion que je portais dans le grand méchant renard. Mais par contre, c'est une question que je porte souvent sur le dans mon travail de manière générale. C'est-à-dire que j'aime beaucoup essayer de me remettre du point de vue d'un animal. Mais j'ai vraiment traité les choses complètement différemment. Si je devais faire ça, j'avais fait un petit court-métrage qui s'appelait La queue de la souris. Bon, c'est pas un livre, mais c'est un petit court-métrage où j'avais fait tout du point de vue d'une souris. Et je voulais vraiment faire en sorte d'imaginer ce que cette souris voyait par rapport au monde. Donc j'avais fait tout le monde en noir et blanc, c'est-à-dire que des silhouettes, qu'elle se distingue rien du tout et que ce soit seulement les mouvements qui puissent nous permettre de distinguer les formes quand elles se mettent en mouvement. Et c'est parce que c'est comme ça que moi j'avais interprété la vision d'une souris, simplement à cause d'une anecdote d'une souris qui m'était montée sur le genou et qui avait du coup pas compris que j'étais humain en fait, qu'elle m'était montée dessus comme ça et elle pensait que j'étais un objet et je me disais bah dis donc c'est dingue, elle remarque pas, et j'ai juste bougé le genou et là tout à coup elle s'est enfuie en courant, donc là elle avait compris que j'étais un humain et c'est le mouvement qui lui avait fait comprendre ça. Et c'est voilà, et c'est dans ce genre de cas que là je vais commencer à réfléchir vraiment à l'animal et au rapport qu'il a pour le représenter.
Gilles Boeuf, la question qu'on pose ce soir c'est, et si les animaux savaient lire, bah, allons jusqu'au bout peut-être de cette question, et si les animaux savaient lire, à votre avis qu'est-ce qu'ils penseraient de ce que l'on écrit sur eux? Est-ce qu'ils seraient contents? Est-ce qu'ils se diraient, finalement, ils nous traitent mieux dans les livres que dans la vraie vie?
Je vais revenir à ce que tout à l'heure vous disiez. Est-ce qu'on est capable de se mettre dans la peau d'un animal? On a essayé plein de fois, ça ne marche jamais. Dire l'animal va à ses réactions d'animal. Hein, je veux dire, si je vais pêcher un saumon, je vais le prendre là. Si j'étais un saumon, je passerai par là. Ça ne marche jamais, ça. Parce qu'en fait, ils ont leur comportement à eux. Quand on parle du langage et de la communication, on a appris le langage de signes à certains chimpanzés. Ils vont jusqu'à 400 signes appris. Donc là, il y a une forme de lecture, de gestes que des humains font, qu'ils vont apprendre entre eux pour communiquer. Et c'est assez effarant. Vous vous rappelez ce chimpanzé, par exemple, à qui on avait demandé de traiter des images d'humains et d'animaux. Il a fait une série des girafes, des baleines, aucun problème. On met un chimpanzé lambda, n'importe lequel, il le met sans réfléchir dans les animaux. Sa photo à lui, il s'y met avec les humains. Et ça, pour moi, c'est une lecture d'un chimpanzé dans une situation de chimpanzé humanisé. Et ça, c'est très important pour qu'on puisse y réfléchir. Alors après, c'est l'histoire de la conscience que vous posez. Quand est-ce que l'animal a conscience de ce qu'il est ? Regardez un chien qui va aboyer pendant des heures devant son image dans une glace. Bon. Alors que le chimpanzé, vous lui peignez une trace sur le front, il va l'effacer tout de suite. Ce que fait une pie également, ou un étourneau. Les oiseaux sont remarquables hein, dans une représentation d'eux-mêmes. Donc, ils lisent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils se diraient ? Bah, les humains sont finalement beaucoup plus stupides que ce qu'ils imaginent. Ils ne sont pas partageurs. Ils servent à rien du tout. Ils sont totalement nuisibles pour la gent animale. Et finalement, il est grand temps, effectivement, de s'opposer à ce qu'ils font et à tout ce qu'ils font, bien sûr, subir aux animaux.
Bah heureusement qu'ils ne savent pas lire, hein, du coup.
Conclusion.
La planète des singes.
Oui, voilà, ça, c'est...
Conclusion de Gilles Boeuf, oui, c'est ça, il vaut mieux mettre les livres loin des animaux, sinon ils vont prendre le pouvoir.
Si ça on... serait très bien.
Alors, c'est ça qu'on va faire tout l'été. On va distribuer des livres aux animaux, à voir ce qui se passe. Gilles Boeuf, ça peut être une expérience. Mais est-ce que nous, paradoxalement, en tout cas, dans le sens inverse, on va prendre le pouvoir par la lecture, par ce biface, donc vous dites, qui nous permet d'être supérieurs aux animaux. Est-ce que inversement, on ne va pas pouvoir se reconnecter à eux par la lecture? Je parlais de la production littéraire de l'année, entre autres, voilà, il y a le Jean-Baptiste Delamo, Règne animal, hein, qui a été prix du livre interne, dont on a beaucoup parlé, sur cette rapacité humaine à vouloir asservir l'animal. Est-ce que là, dans la lecture, aussi dans votre dernier ouvrage, on ne peut pas se reconnecter cette idée à l'animal ?
Bien sûr, bien évidemment. Mais ça va passer par le respect. En fait, l'humain, aujourd'hui, son plus gros défaut, c'est qu'il ne tient compte que des humains. Et tous les autres, 2 millions d'espèces sur la Terre connues aujourd'hui, 1,3 million d'espèces animales, et on les oublie, en fait. Hein. On ne pense qu'à nous et quelquefois aux animaux domestiques. Parce que ceux-là, c'est nos chouchous. Hein. Moi, j'aime les tardigrades. Certains aiment leurs chiens ou leurs chats. Hein. Chacun ses trucs. Hein. Chacun ses fantasmes, comme disait tout à l'heure Benjamin. La lecture doit nous permettre, effectivement, à travers des retrouvailles de connaissances, d'être mieux capable, effectivement, de réanimaliser le système et de retrouver de l'harmonie avec le vivant, dont bien sûr les animaux. Et c'est là que les mouvements actuels qui sont très délétères de transhumanisme, qui veulent refuser la partie biologique de l'humain pour en faire effectivement des machines qui sont hybridées avec des systèmes électroniques, pour nous éloigner de l'animal. On a un peu honte de notre condition animale. On a bu, on a mangé, on fait des tas de choses. Et ben c'est superbe. Et c'est comme ça qu'on va se reconnecter. C'est pas par l'inverse. La lecture est essentielle pour ceci. Maintenant, il faut choisir ce qu'on lit, bien évidemment.
Benjamin Reiner, une toute dernière question. Quand vous dessinez, quand vous écrivez, vous avez des animaux autour de vous? Parce que c'est vrai que l'image, c'est l'image d'Épinal, évidemment, de l'écrivain. C'est quoi? C'est
son chat.
Je fume la pipe et j'ai un chat, quoi.
Non, alors j'habite juste à côté du jardin.
Ah ben, je ne fais pas une émission culturelle, bon. voilà. Vous l'aurez entendu.
Alors, oui, j'habite juste à côté de la ménagerie du Jardin des Plantes, déjà. Donc, effectivement, je vais toujours me référer à ça quand j'ai un petit coup de blues. Et en ce moment, j'ai un chien, effectivement. Mais je ne l'ai pas pour longtemps parce que c'est un futur chien guide. Donc, je l'ai juste pendant un an et je dois le rendre après pour qu'il serve à un aveugle. Voilà. Donc,
il vous inspire peut-être dans votre
dessin ? Il m'inspire beaucoup en ce moment. Enfin, il est assez pénible aussi. Donc, il me coupe beaucoup dans mon travail. Mais une fois qu'il sera parti, je pense que j'aurai beaucoup de matière à mettre en scène. Ouais.
Le chien du dessinateur.
Vous allez lui apprendre à élever des poussins.
Ouais, bah j'ai pas encore tenté. J'ai un peu peur de la réaction de chien devant les poussins, mais voilà, c'est peut-être pas comme dans les livres. Hein.
Alors là, je crois que c'est quoi? C'est le moment des remerciements, des applaudissements, c'est ça?
Applaudissements
en ping-pong
pour nos invités
et à Benjamin Reiner.
On a envie d'appeler Benjamin Renard.
Ah oui, c'est vrai. Oui,
oui. Bah, c'est une coïncidence.
Voilà, je vous le laisse. Et on passe à la suite.
Eh bien, la suite, c'est la deuxième heure de notre collaboration au milieu des livres de la librairie de Paris, ici, Place Clichy à Paris, donc avec vous, Hervé Gardette, et bien sûr Mathilde Serrel.
Oui, eh bien, je suis là, et je rappelle que cette journée spéciale pour le livre, elle continue à 21h avec Arnaud Laporte, qui va réunir une dispute littéraire et ses critiques. Ça a été enregistré cet après-midi, diffusion à 21h. Le hashtag, c'est pour le livre, pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, toute la journée, il y a eu des préconisations littéraires diffusées à l'antenne de France Culture. On va écouter celle de la chef, la directrice de France Culture, Sandrine Trainer, écrire pour sauver une vie de l'écrivain afro-américain John Edgar Wideman.
John Edgar Wideman est un écrivain américain qui a aujourd'hui une œuvre extrêmement importante et pour une raison que j'ignore, il est insuffisamment lu, insuffisamment connu en France. Alors, qui est-ce? C'est un écrivain qui est né aux États-Unis en 1941 dans le ghetto noir de Pittsburgh. C'est à partir de son expérience de gamin puis d'adulte afro-américain dans la société américaine traversée par les tensions raciales que l'on sait qu'il écrit. Et il nous revient après une trilogie consacrée à ce ghetto noir qu'il a si bien connu. Il nous revient avec un livre dont le titre est en lui-même impressionnant. Il s'intitule « Écrire pour sauver une vie ». Alors, de quelle vie s'agit-il? Eh bien, il s'agit peut-être de la vie de John Edgar Wideman, ou peut-être même de la vie de son frère ou de son fils, qui sont l'un comme l'autre aujourd'hui aux États-Unis, en train de purger des peines de prison à vie, accusés l'un comme l'autre de meurtre. Ou alors, il s'agit de la vie d'un gamin qui aurait exactement l'âge de Wideman aujourd'hui, qui s'appelait Helmut Till. Helmut Till, c'est une affaire qui a déclenché le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis en 1955. C'est l'histoire d'un gamin dont une femme blanche a dit qu'il l'avait sifflé dans la rue. On est venu le chercher et on l'a massacré, littéralement massacré. À l'époque, sa mère l'a fait enterrer avec un couvercle transparent pour que l'on voit ce qui avait été fait à cet enfant. Cet enfant, donc 14 ans, en 1955, il avait exactement l'âge de Weidman. Et Weidman s'empare de cette affaire à la fois pour revenir sur ce qui s'est passé à cette époque-là, mais aussi, évidemment, pour envoyer un coup de projecteur sur la société américaine d'aujourd'hui. Il se demande si l'affaire Helmut Till pourrait encore avoir lieu aujourd'hui, et je crains qu'il réponde de manière positive. C'est un, à la fois un roman, un essai, un récit lié question de la vie à bien des égards tragiques de Weidman. Il y est question de ce gamin, il y est question de l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui. Il y est question de nous tous.
Ping-pong.
Du grain.
À moudre.
Voilà, ping-pong, du grain à moudre, ping-poudre, qu'est-ce que c'est? C'est un peu de ping-pong, c'est un peu de grain à moudre, et c'est donc cette émission spéciale que nous vous proposons depuis 18h20, depuis la librairie de Paris, qui, comme son nom l'indique, est une librairie, et se trouve où ça?
À Paris, dans le 17e.
Mathilde Serrel et Martin Kénéen sont à mes côtés pour continuer cette discussion avec deux nouveaux thèmes d'ici 20h. La littérature est-elle un outil de développement personnel en compagnie de Corinne Peluchon et de Maria Majidi? Et la librairie est-elle un lieu de contre-pouvoir? Ce sera avec Alexandre Jardin et Manuel Cervera-Marzal.
Alors allons-y franco, puisque la question que nous allons nous poser à présent avec nos deux premières invités de cette deuxième heure de Ping Poudre, c'est donc de savoir si la littérature est un outil de développement personnel. On nous parle beaucoup ces derniers temps des feel-good books, des livres de l'été qui seraient des livres qui mêleraient petites citations de développement personnel sans risque et puis littérature sans danger, pour faire simple. Et en même temps, voilà, on a l'idée que s'aventurer dans la littérature peut faire du bien, peut-être aussi faire quelques ravages. C'est ce qu'on va étudier avec et analyser, approcher avec nos deux invités qui sont Mariam Majidi, romancière, auteure de Marx et la poupée, qui vient de recevoir le Goncourt du premier roman.
Mais oui, bien sûr. Et on est en plus à l'espace développement personnel de la librairie de Paris, donc il faut quand même le signaler, ça tombe bien pour la thématique. Qu'est-ce qu'on vend dans le développement personnel? Eh bien, le livre des vrais surdoués, la semaine de 4 heures, c'est intéressant quand même, ça peut être un bon projet pour la rentrée, un livre libérateur qui fait un bien fou, voilà pour le développement personnel. Mais donc, à nos invités, ce qu'on veut savoir, c'est ce que la littérature peut comme développement, comme affirmation personnelle. Avec nous, donc Corinne Peluchon, philosophe, professeure à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, c'est notamment auteur de des nourritures, hein, philosophie du corps politique, publié au Seuil, aussi du manifeste animaliste chez Alma, qui prend un peu la succession de Gilles Boeuf dans le plateau précédent. Et donc Maria Majidi, romancière et prix Goncourt du premier roman pour Marx et la poupée, publié au Nouvel Attila. On voudrait d'abord vous faire entrer en littérature et écouter quelques mots lus par Maria Majidi.
Les livres enterrés. Pour la première fois, le père et la mère sentent leur foi révolutionnaire décliner. Il y a comme des fissures sur l'édifice de l'engagement. Des rides apparaissent sur leurs visages si fermes auparavant. Ils ouvrent les yeux et regardent leur fille de 5 ans qui joue dans la rue avec les enfants du quartier. Ils ouvrent les yeux et regardent leur maison, le salon vide, sans meubles de valeur, sans tapis, sans aucun décor. Et ils voient les ombres des camarades qui se réunissaient là. Ils ouvrent les yeux et aperçoivent pour la première fois l'avenir, leur avenir. Ils veulent vivre. Pour cela, il faut partir. On va les enterrer dans le jardin au pied de l'arbre. C'est la meilleure cachette. Mais pourquoi faire? Tu sais qu'on ne reviendra jamais. Et même si on revenait, cette maison et ce jardin n'existeraient plus. C'est pas grave, on doit le faire. On peut pas les jeter ou les brûler ou pire, les donner à quelqu'un. Oui, c'est vrai, ce serait un cadeau empoisonné. Vas-y, apporte les livres. Moi, je creuse le trou. Et la mère dépose dans ce trou Marx, Engels, Lénine, Makarenko, Che Guevara et tous les autres. Le père les recouvre de terre humide. La petite fille est là, elle les observe debout sur le perron. Elle se dit que ce jardin contient désormais beaucoup de choses. C'est joué à elle et maintenant les livres interdits de son père. Elle s'est jurée de revenir et de déterrer tout ça plus tard, quand elle le pourra.
Mariam Majidi, vous venez de nous
lire.
Un extrait en public de cette librairie de Paris en direct sur France Culture de votre livre, votre roman, Marx et la poupée, donc qui, on se plaît à le rappeler parce qu'on en est très heureux pour vous. Vous avez lu le Goncourt du premier roman cette année. Vous parlez de ces cadeaux empoisonnés que sont les livres enterrés par votre famille, parce que disons-le, c'est votre premier roman et c'est le roman de votre histoire, de l'histoire de votre famille, de vos parents exilés iraniens en France. Et puisqu'on est dans cette question de savoir si la littérature est un objet, un outil de développement personnel, on se demande si ce roman initiatique vous permet, et permet peut-être à vos lectrices, à vos lecteurs qui vous ont donc décerné ce prix, de se construire, d'avancer dans l'existence, ou au contraire, voilà, c'est cet objet empoisonné, vénéneux, qui vous a fait du mal à l'écrire et qui va ravager toutes ces lectrices et tous ces lecteurs.
Alors en fait, c'est une question très intéressante, mais moi je ne place pas du tout l'écriture ni la littérature sur ce plan-là. J'ai écrit parce que j'avais envie de raconter des histoires, pas forcément la mienne d'ailleurs. Et ça ne m'a fait ni du mal ni du bien. Moi j'ai travaillé comme un artisan sur le style, sur la forme, sur les métaphores, sur la poésie, sur le conte, la fable. Enfin bon, voilà, il y a tout ce genre, il y a plein de genres différents dans ce livre. Et moi c'est ça qui m'intéressait, c'était de travailler la forme avant toute chose.
Il
n'y
aurait pas d'avant et d'après, puisqu'on se pose la question du
développement. Moi, je me sentais bien avant de l'écrire, je me suis sentie bien en l'écrivant, je me suis sentie encore mieux après, puisque j'ai eu une reconnaissance littéraire qui est franchement très, 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 très chouette pour un auteur de premier roman. Maintenant, non. Disons que je pense que... Enfin, moi, en tout cas, je distingue assez nettement la littérature de la psychanalyse ou justement des œuvres là, qui nous entourent de développement personnel. Qui, attention, je ne remets pas en question leur utilité, mais ce n'est pas pour moi... Enfin, la littérature n'est pas sur ce terrain-là, ne se joue pas là-dessus. Voilà. Mais c'est, bon, un point de vue très personnel. Hein, je ne...
Corinne Pelluchon, peut-être on peut entrer un peu plus dans cette philosophie du développement personnel par la littérature. En tout cas, ça a été théorisé par Marielle Masset sur à la fois le risque que prend le lecteur de ne pas sortir indemne d'un ouvrage, cet engagement-là du lecteur, et aussi cette individuation qui peut se faire à travers la littérature, c'est-à-dire devenir plus subjectif par rapport à soi, affirmer ce qu'on est en tant qu'individu au sein du groupe. Est-ce que pour vous, dans la dimension éthique, c'est ça qu'il y a dans le développement personnel de la littérature ?
Mais je crois que justement, je suis assez d'accord avec l'autre interlocutrice, c'est-à-dire que le développement personnel n'est peut-être pas le bon mot. Le développement personnel, c'est la recherche de recettes, c'est pour se trouver. Or, la littérature, me semble-t-il, met beaucoup de perplexité, à la fois dans le monde, puisqu'elle met au jour ce qu'on ne voit pas, et surtout des situations complexes, quand nous avons souvent, notamment en morale, tendance à chercher, à appliquer des principes, à chercher des normes. Donc la littérature, loin de tout développement personnel et loin des outils, cultive au contraire l'expérimentation, la surprise, l'écart entre soi et soi, et justement peut-être s'adapte mieux à la fragilité du jugement moral. En tout cas, et c'est ça qui est peut-être, alors là, son, je dirais pas utilité, mais le fait qu'elle est une aventure morale, comme disait Martha Nussbaum, qui a beaucoup travaillé sur ce lien entre littérature et jugement moral, en disant que ce n'était pas pour illustrer des thèses philosophiques, mais peut-être aussi pour nous apprendre à nous mettre dans d'autres vies que la nôtre, mais aussi, surtout, que la littérature changeait le sens de l'éthique. Au lieu de la penser comme l'application de principes, ça permettait justement de voir qu'il n'y a pas d'éthique sans situation. La littérature nous incite, c'est vrai, à avoir cette attention aux situations, aux particuliers, et à tout ce qui fait qu'on peut avoir plein de certitudes, mais à l'occasion des situations, ces certitudes-là s'effondrent. C'est le sens des tragédies, des Grecs et tout cela. Et donc je crois que s'il y a un sens, s'il y a une richesse dans la littérature, et vous l'avez dit, vous l'avez suggéré aussi, c'est parce que l'imagination morale, qui est peut-être l'enfant pauvre de notre époque, eh bien l'imagination morale qui va de pair avec l'expérimentation des mots dans leurs nuances, eh bien permet de voir le monde avec plus de perplexité, de nuances, et peut-être avec un regard moins surplombant sur soi et sur les autres.
Mais alors peut-être que plutôt que de parler de développement personnel, est-ce qu'il faudrait pas utiliser notre formule formule qui serait la construction personnelle pour parler de la littérature. Et est-ce que l'une et l'autre, d'ailleurs, puisque vous êtes là aussi en tant que lectrice, vous diriez qu'il y a peut-être des livres, des romans qui ont participé de votre construction, Corinne Peluchon, des romans que vous considérez comme fondateurs, qui, si ce n'est, ont changé votre vie, mais enfin, vous ont donné quelques balises dans la vie?
Oh oui, il y en a beaucoup. Alors ça change selon les époques. Je dirais qu'on rencontre un roman aussi selon son histoire, mais il y en a beaucoup. Moi, j'ai adoré Isaac Bazavis-Singer, Enemies. Hein, alors évidemment, c'est ces personnages qui sont très sensibles à la cause animale, qui rapportent tout un tas de choses. Et c'est vrai que la littérature permet d'explorer, de dire des choses qui sont très difficiles à dire de manière conceptuelle. Moi, je suis philosophe, donc je baigne dans le concept sans arrêt, si je puis dire, et j'en rajoute, et j'en cherche. Les philosophes sont des architectes. Ils ont l'obsession de la construction, mais la construction finalement, elle doit prendre conscience aussi de ses limites, car, et en plus moi je suis philosophe politique, morale, donc je m'intéresse à ce qui échappe à la rationalité, à ce qui la met en échec, à ce qui peut-être est premier par rapport à la rationalité, et donc du coup, et la littérature est souvent plus subtile, plus riche, et ramène le philosophe avec ses obsessions d'architecte à peut-être, eh bien, ce chaos qu'est le réel, et que nous essayons d'ordonner. Alors c'est vrai, Il y a ça, mais je dirais aussi, pour vous répondre, ce lien entre littérature et individuation, oui. Tant du niveau du lecteur que du niveau de celui qui écrit. Il y a eu, dans la littérature postcoloniale, un effort pour donner une voix à des êtres qui n'en avaient pas eu. C'est vrai que chez Balzac, même chez Dostoïevski, qui est formidable, eh bien, par exemple, les femmes ne s'expriment pas forcément toujours à la première personne, hein, leur point de vue est vu de la part de l'autre, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu, dans les littératures...
Il y a les animaux aussi,
voilà, les animaux.
Le cocker chez Virginia Woolf.
Oui, mais on parle à leur place. C'est plus compliqué. Mais dans les minorités, il y a toute une littérature qui n'est pas d'identité, mais on a donné une voix à ceux qui n'en avaient pas encore, ou dont l'identité avait été assignée à des places. Et ça, c'est très intéressant, ce qui montre que la littérature a une force de résistance morale et politique. Alors ça, c'est pour celui qui écrit, et pour celui qui lit aussi. Quand on voit Césaire, ce qu'il a apporté, et pour chacun de nous, pour répondre aussi à votre question, parce que se construire soi, bon, moi je suis philosophe, donc ce qui me construit, c'est quand même d'abord et avant tout cette construction un petit peu obsessionnelle de la philosophie, mais c'est j'y peux rien, c'est comme ça. Mais c'est vrai,
mais
que
manger du concept, voilà, ça, c'est Corinne Peluchon,
mais c'est vrai qu'il y a aussi dans la construction, c'est le partage. Par exemple, c'est vrai que quand on lit un roman qu'on aime, moi j'adore par exemple George Eliot, Middlemarch, vraiment un roman, un gros roman. Et quelqu'un tout à l'heure qui cherchait les gros romans, il y en a un pour elle. Eh bien, c'est vraiment, j'ai beaucoup, je trouve que quand on aime un roman, on peut en parler et ce qu'on dit à propos du roman nous apprend des choses sur nous que peut-être on ne dirait pas autrement. Parce que souvent, on raconte des histoires. On a un point de vue sur soi. Alors ça, moi, j'aime les concepts, mais j'évite de parler trop de mon point de vue sur moi, parce que je ne crois pas que la vie, l'existence, soit un point de vue sur l'existence. Ça, c'est plutôt des salades. Mais justement, parler de soi à travers des romans qu'on aime, des émotions qu'on éprouve, au cinéma, c'est pareil, c'est vraiment l'occasion d'un échange profond. Et pour tous les amoureux, je crois que la meilleure manière, c'est pas de s'envoyer des SMS, mais plutôt de parler des romans qu'on a lus. Peut-être la meilleure manière.
Maria Majidi, du coup, on va peut-être en savoir un peu plus sur vous, si vous nous parlez des romans qui vous ont peut-être construite, qui vous ont changé, qui ont peut-être creusé des failles en vous dans ce chaos, et qui que vous conseilleriez, puisqu'on est à l'orée des vacances pour un certain nombre de Françaises et de Français et d'autres, d'emporter avec eux et peut-être d'attraper dès aujourd'hui dans les rayonnages de la librairie de Paris.
Alors moi, j'ai deux parents littéraires qui me tiennent la main depuis le début, c'est Duras et Gary. Donc je suis désolée, je répète tout le temps ces deux auteurs, mais vraiment, hein, ma formation littéraire est passée par Romain Gary et Marguerite Duras. Ensuite, je sais pas s'ils m'ont aidé à me construire, par contre. Je pense que tout simplement, c'est la vie qui nous permet de nous construire. Ce sont les rencontres, ce sont les gens, c'est tout ce qui est vivant. La littérature vient sublimer. La littérature vient dire ce qu'on n'a pas pu dire nous-mêmes dans des situations vécues. C'est-à-dire qu'elle vient comme combler ce mutisme parfois, ce silence, ces secrets, et elle vient mettre de la beauté là où il y en avait, mais on n'avait peut-être pas les yeux suffisamment grands pour le voir. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Après, je sais pas ce que je... Enfin, c'est très personnel, tout ça sont des lectures. Là, je suis en train de découvrir Carlos Lizcano. J'adore, c'est un auteur qui vient de Montevideo en Uruguay. C'est le fourgon des fous. C'est une œuvre qui m'a complètement bouleversée. Voilà, donc les conseils de lecture après sont toujours très subjectifs. Moi, ce que j'ai envie de dire, surtout, c'est que j'aime bien cette notion de chaos dont vous avez parlé. Je pense effectivement que plus que la construction, la littérature est le terrain de la déconstruction, en fait. Déconstruction des clichés, des idées reçues, des certitudes, des conventions. Moi, je vois ça comme un espace de profonde liberté qui n'amène pas le lecteur forcément, comme vous l'avez dit, une recette facile pour atteindre le bonheur, comme si le bonheur pouvait être mis en boîte, mais plutôt pour aller creuser en lui et aller chercher, justement, après avoir dépoussiéré ses clichés, ses idées reçues et toutes ces choses qu'on lui a mis dans la tête, pour aller chercher peut-être une voie plus authentique, mais qui lui appartient à lui. Ce n'est pas l'auteur qui va donner cette espèce de recette ou de... comme si c'était une recette de cuisine, vous voyez, il faut un peu ça pour être heureux. Moi, ce qui m'a surpris dans mes rencontres avec mes lecteurs, c'est que beaucoup de lecteurs sont venus me voir en me disant « Ah, mais je me suis totalement reconnue dans cette œuvre, ça m'a fait du bien, je suis fière maintenant d'avoir une double culture, d'être exilée, d'être immigrée. » Mais moi, je ne l'ai pas écrit dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand j'étais en train de l'écrire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était la manière qui m'intéressait, le comment raconter tout ça. Et le fait que ça puisse ensuite résonner chez d'autres, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse entendre pour un auteur. Parce que ça veut dire que la portée personnelle, justement, a été dépassée. Et que ensuite ce roman, par exemple, Marx et la poupée, puisse aider d'autres lecteurs, les lecteurs potentiels, à se retrouver, à faire leur chemin dans cette quête d'identité, très bien. Mais ce n'est pas du tout le but, je crois, de la littérature. Vraiment pas.
Il y a le but de la littérature, il y a le risque qu'on prend en tant qu'auteur, on a parlé du risque en tant que lecteur, dans la déconstruction, dans le chaos, de ne pas sortir indemne d'une lecture. Et en tant qu'auteur aussi, vous prenez des risques, Mariam Majidi, lorsque vous êtes mis à écrire ce premier roman, qui en fait est une réconciliation de langage entre le persan et le français, entre justement l'iranienne et la française que vous êtes.
Alors oui, bien sûr, écrire c'est s'exposer, et s'exposer ça fait toujours peur. Hein, ça me paraît évident. Maintenant, moi, je pars sur une base autobiographique. Et donc, je me suis dit, c'est quand même mon enfance que j'expose, là. C'est mon enfance que je donne au monde, que je donne à lire. Et là, il n'y a pas eu vraiment de danger. Le seul risque, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, si les gens n'aiment pas, c'est comme ce que disait Barthes, j'écris pour être aimé. Je me suis dit, ah bah zut. Je vais avoir peur de ne pas être aimée, en fait. C'est idiot un peu, hein, mais bon, on est quand même des êtres, je crois, assez narcissiques. Hein. En tant qu'auteur, on veut qu'on aime notre livre, donc à travers le livre, nous-mêmes. Je me suis dit, bon, le seul risque, c'est ça. C'est que finalement, ça ne soit pas lu, ça ne soit pas rendu visible. Et là, je me suis dit, mais c'est pas grave, j'en écrirai un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Bref, l'aventure, en fait, littéraire continue au-delà de la réception de l'œuvre. Je crois que le seul risque, c'était ça, vraiment, oui. C'était d'exposer mon enfance, d'exposer une part intime de moi-même. Voilà. Mais, ça va, ça se passe plutôt bien.
Bah, vous avez eu le prix Goncourt du premier roman, c'est pas mal, oui.
Corinne Pelléchon?
Moi, je ne suis pas écrivain, je suis philosophe. Alors, il y a une part dans la philosophie d'écriture, de style. Mais je crois que pour reprendre les questions que vous posiez tout à l'heure, ou plutôt pour en ajouter une question, qu'est-ce qui se passe quand... Parce qu'on dit beaucoup aujourd'hui que les jeunes gens lisent un peu moins de littérature qu'auparavant. Je crois que c'est malgré tout une réalité. Et la question qu'on peut se poser, c'est non pas à quoi sert la littérature, mais qu'est-ce qui se passe quand les gens ne traversent pas ces expériences, ne font pas ces aventures, ne prennent pas ce bateau-là qu'à chaque fois la lecture d'un roman, avec cette part justement d'expérimentation, de rencontre de ce qu'on n'attendait pas. Aujourd'hui, avec beaucoup les moyens techniques, les gens ont tendance à chercher exactement, vouloir vraiment trouver ce qu'ils cherchent. Je crois que la littérature, comme la pensée, c'est s'aventurer. Et je crois que vraiment, ce qui manque aux êtres qui ne prennent pas le temps de lire, c'est non seulement ce rapport aux mots, à soi qui enrichit, parce que le rapport au monde, c'est aussi un rapport d'abord avec les mots, dans leur subtilité, dans toute leur gamme de nuances, notamment dans la psychologie, etc. Mais c'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, sortir de la doxa, de l'opinion, de l'assignation à des identités, aux conventions sociales. Et c'est ça que peut peut-être la littérature aujourd'hui, dans un monde multiculturel et où les êtres ont tendance à être simplifiés, à aller très vite dans des réponses, à chercher trop vite des réponses, y compris pour le développement personnel. Eh bien, c'est peut-être que ce que la littérature ajoute, c'est cette perplexité, cette aventure, et donc plus de liberté. Ça, je crois que c'est absolument précieux. Et puis, le plaisir du texte. Mais là, il faut prendre le temps. La littérature, c'est un plaisir qui, peut-être comme les plaisirs les plus grands, se gagne avec le temps.
Vous disiez tout à l'heure, Corinne Peluchon, qu'un des plaisirs aussi de la littérature, c'est justement de parler des livres qu'on a lus, et c'est aussi une façon de parler de soi, mais qu'il y a un vrai plaisir. Et vous nous disiez, Marie-Ma déjà dit, que parmi les auteurs justement que vous mettez au sommet, il y a Gary et il y a Duras. Mmh. Vous voyez Corinne Peluchon acquiescer à la mention de ces deux auteurs, Romain Gary et Marguerite Duras. Duquel des deux auriez-vous envie de discuter justement avec Marie-Ma Djadi?
Oh bah, il y a les deux qui me plaisent, c'est autre chose. Moi, j'ai adoré le Ravissement de l'Olvestein. J'ai été comme durassienne en son temps, comme proustienne en son temps. On est très infidèle en littérature, hein, donc ça pose pas de problème. Mais Gary, c'est Les Racines du Ciel. Et en tant qu'écologiste, hein, eh bien évidemment, avec les éléphants, que serait un monde sans éléphants? Bon, ben, Racines du Ciel, c'est pour moi livre de chevet. Mais quand vous parliez, moi, je pensais à un livre que j'ai adoré quand j'étais très jeune. C'est Paulina 1880 de Pierre-Jean Jouve, qui est peut-être peu connu, qui est un livre à la fois poétique, érotique, mystique. Enfin, il y avait tout pour me plaire. Je crois que j'ai rien compris, mais en tout cas, c'est ça, un roman absolu, un livre que je ne sais pas quoi, un ovni, c'est pour ça que j'aime tant, qui est tout à fait spécial. Je crois que c'est à chaque livre, chaque œuvre magique, justement, est spéciale. Je parlais tout à l'heure des George Eliot, Middlemarch. J'adore cette littérature anglaise très subtile, ces personnages très subtils. Mais Pierre-Jean Jouve, j'adorais, Bernanos, j'adorais. Bon, donc moi, je suis absolument infidèle en littérature, avec quelques chouchous. Par exemple, Isaac Bazavis-Singer, c'est vraiment mon chouchou, hein, avec Elisabeth, avec Jean-Marie Coetzee. Bon, comme par hasard, c'est des végétariens, j'y peux rien. Hein. Mais bon, donc là, vous voyez que je peux pas m'empêcher quand même de chercher.
Le retour du manifeste animaliste, voilà, pour Corinne Peluchon.
Mais et puis Philippe Roth, que j'adorais.
Qui n'a rien d'un végétarien.
Voilà, qui n'a rien d'un végétarien, mais qui est tellement rock'n'roll. Et voilà, donc je trouve pas.
Si vous aimez la viande, mais que vous aimez le rock'n'roll, vous pouvez.
Ah oui, voilà. Donc vous voyez l'infidélité en littérature.
Marie-Ma Djadi, on s'interroge sur les effets de la lecture et de l'écriture, donc sur les auteurs, mais je crois qu'il y a un effet différent de construction, de déconstruction, de chaos ou de développement personnel, pour reprendre l'intitulé de maladroit ou malheureux de cette discussion, chez chacun des lecteurs qui va être différent. Mm-hmm. Et je trouve que vous racontez dans Marx et la poupée non seulement votre enfance de fille d'exilés iraniens en France, mais aussi des bribes de vie à Téhéran aujourd'hui, de cette jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce que vous savez si votre livre a été traduit, peut-être officiellement ou clandestinement? Est-ce qu'il circule? Et quels effets il a sur les lectrices et les lecteurs de Téhéran?
Alors, c'est très intéressant parce que figurez-vous qu'en Iran et concernant toutes les maisons d'édition iraniennes, les droits d'auteur n'existent pas. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, il y a plusieurs ou une traduction, je ne sais pas, qui circule, alors sous le manteau ou de manière officielle. Alors si c'est officiel, c'est à mon avis ça va être charcuté, censuré comme il faut, ou alors je sais pas, peut-être un traducteur iranien mais vivant à l'étranger est en train de le faire. Donc ça, c'est quand même hallucinant que les droits d'auteur n'existent pas, c'est-à-dire on en fait absolument ce qu'on veut. Voilà, un autre exemple du chaos iranien, on pourrait dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas trop. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la réaction. J'ai eu des réactions de lecteurs iraniens vivant en France et qui sont venus me voir avec vraiment le sourire sur les lèvres et une très grande fierté, encore une fois, dans les yeux, en me disant « mais... vous racontez notre histoire et comme vous le racontez à travers les yeux d'une petite fille, il n'y a pas le moindre jugement moral. Il n'y a pas le moindre roman, que vous savez, c'est le roman à thèse, voilà, avec
qui sont en général les plus mauvais.
Voilà, c'est ça. Hein, je suis désolée de le dire, mais enfin bon, c'est pas les meilleurs. Et donc ils m'ont dit, mais en fait, on a retrouvé cette émotion qu'on avait pu ressentir en s'exilant. Voilà, donc. Après, quant à la traduction persane, il faudra attendre, je crois, un moment donné, de recevoir peut-être des menaces.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Ça sera le signe que c'est traduit et que ça circule en Iran.
Il y a une question qu'on avait posée, et ça sera la toute dernière pour vous deux, Corinne Peluchon. Et Maria Majidi, à nos tout premiers invités, puisqu'on parlait de la librairie comme point de départ et point de départ en vacances, en voyage, qu'est-ce qu'ils emmenaient cet été pour lire? Est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose, Corinne Peluchon?
C'est-à-dire que moi, je dois finir un livre et j'ai un peu de retard, donc je pense que je vais écrire surtout pendant tout l'été pour finir ce livre.
Mais est-ce que ce sera de la philosophie ou de la littérature? Parce que vous avez publié ce conte, Comment va Marianne?
Ah oui, c'est vrai. Oui, je voyais, j'ai un petit péché que j'avais oublié. Vous voyez, mais c'est quand même, c'est sur les animaux quand même. C'était très philosophique. Mais oui, je vais surtout, je vais reprendre, donc je vais finir mon livre. Donc, alors, mais j'amène quand même, justement, je voudrais reprendre Middlemarch de George Eliot. Je sais pas, j'avais envie de me reprendre ce livre parce que je l'avais lu en anglais à l'époque et j'aimerais bien le relire en français comme paresseuse.
Ou en persan.
Voilà, je ne suis bien incapable de lire en persan.
Et vous, Myriam Majidi?
Alors, moi, je suis en train de penser à la suite, donc au second roman. Et donc, pour cela, j'emporte avec moi cet été la poésie d'une très grande femme iranienne qui a écrit dans les années 60 en Iran, qui s'appelle, c'est imprononçable pour les Français, Furugh Farrokhzad. Donc, prononciation française, Furugh Farrokhzad, ça le fait moins. C'est une très grande poétesse et sa poésie est absolument révolutionnaire et féministe. Et je voudrais peut-être travailler sur elle, mais j'en dis pas plus. Donc j'emporte toute sa poésie.
C'est voilà. Un indice pour le deuxième roman de Myriam Majidi.
Merci Corinne Peluchon, merci Myriam Majidi.
1, 2, 3. Eh bien, à suivre déjà notre dernière conversation ici à la librairie de Paris, à Paris, dans le cadre de ce Ping Poudre, cette émission spéciale de 2 heures, dans le cadre de cette journée pour le livre. La librairie est-elle un lieu de contre-pouvoir? On va converser à ce sujet avec Manuel Cervera-Marzal et Alexandre Jardin.
Et tout de suite, de la musique.
Ping-pong. La culture sans limite.
De la musique dans une librairie. Une journée spéciale consacrée au livre, pour le livre, et vous nous mettez de la musique dans Ping Poudre, la réunion du grain à moudre et de ping-pong? Eh bien oui, parce que cette musique est à lire. C'est la musique de Rodolphe Burger, 5e album studio, Good, tiré de l'œuvre de Samuel Beckett et fruit de ses lectures et notamment collaboration avec l'écrivain multiforme Olivier Cadio.
C'est l'heure où tout le monde est vieux. Parfum en tête, une suée. Le son du variateur quand la lumière faiblit. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous rappelle rien? On se retrouve, ni mieux ni pire, au bar. Quelque chose a enflé, quelque chose s'est creusé. Ça ne vous dit rien? Rien. C'est le signal pour servir les cocktails de flatterie au venin. Quant à moi, merci bien, je ne bois rien. Que des liqueurs abstraites, produites à l'œil par magie blanche. Vous reprendrez bien une petite coupe ou pas. Nuit de ci, nuit de là. Chantonne un cavalier mental. My rifle, my pony. My pony and me. Ça ne vous dit rien. My rifle, my pony, and me. My rifle, my pony, and me. On se retrouve, ni mieux ni pire, au bar. Quelque chose a enflé. Mais quoi ?
Good, c'est le dernier album de Rodolphe Burger. Et là, c'était l'Happy Hour, le morceau sélectionné par nos soins, par Mathilde Serrel et Thomas Beau. C'est un disque Good paru sous le label Dernière Bande.
Ping-pong.
Du grain.
À moudre.
Nous abordons le dernier plateau, le dernier mouvement, si c'était une symphonie, cette réunion du grain à moudre et de ping-pong, bien sûr.
Le dernier carton, si c'était du basket.
Voilà, toujours en direct de la librairie de Paris, ici, place de Clichy, dans le 17e, avec cette idée de l'évolution, de la mutation, notre approche de la littérature, à l'heure des algorithmes d'Amazon, des suggestions standardisées, ici, dans une librairie. On est dans le lieu de la subjectivité, on est dans le lieu de l'échange, donc peut-être même dans le lieu du contre-pouvoir. Proposer un manifeste brûlant qui est encore sous les radars, inviter des écrivains notamment étrangers à rencontrer le public français pour fédérer autour d'une pensée, je repense à Malcolm X invité à Présence africaine lorsqu'il était venu à Paris, ouvrir le spectre littéraire, prendre risques et paris, bref, le libraire est-il plus que jamais un activiste?
Et bien pour en parler avec nous trois ce soir, Manuel Cervera-Marzal, bonsoir.
Bonsoir,
vous êtes politologue à l'EHESS, vous êtes passionné et curieux des ZAD, des indignés du parti Podemos. Vous avez signé Les Nouveaux Désobéissants, Citoyens ou Hors-la-Loi aux éditions du Bord de l'Eau, et vous posez la question, ou non même vous proposez un pamphlet pour un suicide des intellectuels chez Textuel. On espère que l'émission se terminera bien pour vous ce soir.
Et s'il y a des intellectuels dans le public, ne commettez pas l'irréparable.
Nous, on ne risque rien, n'est-ce pas?
J'espère qu'Alexandre Jardin...
On s'exclut tout de suite de cette sphère-là.
Je ne sais pas ce qu'il en est d'Alexandre Jardin. Voilà. Bonsoir.
Bonsoir. On
écrivain, la chose est sûre, vous avez signé bien sûr Révoltons-nous 1+1+1, c'est chez Robert Laffont, et bien allons-y.
Allons-y déjà, peut-être de poser cette question à Alexandre Jardin, parce qu'il y a l'activité du romancier et il y a évidemment cet activisme de terrain qui passe aussi par le livre, parce que vous avez régulièrement comme ça monté des engagements associatifs et politiques autour du livre, il y avait notamment l'association 1000 mots avec des bénévoles retraités qui interviennent en prison. Activisme et littérature, c'est votre métier aujourd'hui, Alexandre Jardin?
J'ai deux mains, je suis ambidextre. Il y a une main qui écrit et puis une main de citoyen. Et c'est vrai que c'est dans les librairies que très souvent des choses importantes ont eu lieu dans ma vie. Parce que c'est un endroit très bizarre où on est un peu hors légalité, hors tout. Et j'ai vécu un des moments les plus forts de ma vie dans une librairie, la librairie Kléber à Strasbourg. Et ce moment-là n'aurait pas pu être vécu ailleurs que dans une librairie. J'avais sorti un livre qui n'était pas un livre engagé, qui était un livre personnel sur mon grand-père Colabo, qui s'appelait « Des gens très bien », et j'en parlais dans une librairie. Et le fait que ça se passe dans une librairie, et non pas ailleurs, tout à coup, les gens se sont mis à parler dans la salle. Et il y a un vieux monsieur qui s'est levé, avec un accent alsacien très fort, et qui a dit « Moi, monsieur, j'en ai fait des rafles ». Il y a eu une espèce de silence, quoi. Et il a dit « Je voulais pas, j'ai fait partie des malgré nous, mais je ne voulais pas aller à Buchenwald. » Et il s'est mis à parler. Et tout le monde dans la salle s'est mis à parler. Parce qu'on était dans un endroit où, quand quelqu'un dit ça, des mots aussi hallucinants, vous ne savez pas si vous êtes dans le pénal, vous ne savez pas où est la légalité, où est le... Et comme on était dans cet endroit très étrange, qui est une librairie, les gens ont pu parler en retournant les cartes. Et tout à coup, il y a eu un moment de retournement de cartes qui m'a semblé impossible ailleurs que dans un endroit comme une librairie. C'est-à-dire dans un endroit de liberté fondamentale, dans un endroit où on peut tout publier,
où on peut tout lire, où donc on peut aussi tout entendre, y compris l'indicible dans une société. Et là, tout à coup, les gens se sont mis à sortir l'indicible. Puis ensuite, il y a une dame qui a dit, voilà, papa était cheminot dans la gare de Metz. Et enfant, on entendait les trains qui s'arrêtaient pendant la guerre. Et c'était impossible de ne pas savoir, parce que les gens hurlaient dans les trains s'arrêtaient. Et tout à coup, ça sortait. Et comme les livres sortent des écrivains, quoi. C'est un endroit sacré. C'est un endroit hors légalité, hors permission, hors morale courante. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent, qui sont transgressifs. Donc c'est un endroit absolument unique. Et si on les fout en l'air, nous serons collectivement responsables de cette absurdité. Donc si on achète tous nos bouquins chez Amazon, eh bien on sera responsable. Parce que ça reste un endroit où l'impensable est pensé.
Manuel Servière-Marzal, vous êtes d'accord avec cette idée de la librairie comme un lieu à part et un lieu où une liberté particulière et peut-être totale peut s'exprimer, et à travers la présence des livres et à travers aussi ce qu'on peut y dire?
Oui, alors j'ai jamais vécu dans une librairie d'expérience aussi poignante et aussi forte que celle que devient de nous conter Alexandre Jardin. Mais c'est vrai que c'est un lieu qui m'est très cher en tant qu'auteur, parce que quand on écrit, en réalité, alors moi, c'est des livres de sociologie, de philosophie, mais c'est pareil pour un écrivain. On ne sait pas exactement à qui on s'adresse. On a une vague idée du public qui est concerné, mais on ne connaît pas personnellement ces gens-là. Et puis quand on vient dans des émissions de radio, c'est toujours très plaisant. Mais la même chose avec les auditeurs, on n'a pas leur visage face à nous. Donc les rencontres auxquelles on est parfois invité par des libraires à faire avec des lecteurs ou des futurs lecteurs qui, charmés par le propos qu'on tiendra, sortiront avec notre livre en main, c'est précieux, parce que ça permet de nouer le contact, d'avoir un retour. Alors c'est effectivement un lieu qui m'est cher. Je voudrais juste rebondir aussi sur cette histoire d'Amazon, parce que c'est vrai que les librairies aujourd'hui indépendantes, les petites librairies, elles perdent des parts de marché, elles sont menacées par ces supermarchés de la culture.
Il y a un groupement de librairies indépendantes sur Internet. Hein,
exactement, et je pense que c'est une initiative tout à fait louable. Alors moi, j'essaye autant que possible d'acheter mes livres en librairie. Il m'arrive, et je le confesse, parfois de craquer.
Vous
de
pouvez tout dire, on est dans une librairie.
Je confesse ici voilà, qu'il m'arrive de temps en temps d'acheter un livre sur Amazon. Encore là, dimanche dernier.
Un test dans le public. Qui a déjà acheté un livre sur Amazon?
On va compter, il y a une trentaine de personnes pour les auditeurs.
Il ne s'agit pas de chercher des coupables, il s'agit juste d'avoir des
acteurs
responsables.
C'était un sondage en temps réel.
Non, mais c'est vrai que c'est assez... C'était dimanche soir, j'ai acheté le dernier Goncourt de Leïla Slimani. Et je vous mens pas, hein, il est arrivé dans un livreur est arrivé le lendemain matin, le lundi matin, hein, à 8h, frappé chez moi pour me le donner en main propre. Voilà, moi j'étais encore en pyjama à ce moment-là, et je veux dire, c'est terrible, parce que qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'entre, j'ai dû commander le livre à 17h dimanche, entre 17h dimanche et lundi 8h du matin, il y a des gens qui se sont activés, qui ont travaillé dans un grand hangar pour aller chercher ce livre, pour le transporter, le ramener dans Paris. Bon,
Seriez allé à la librairie, ce serait allé plus vite.
Ce serait peut-être allé plus vite, mais voilà, je serais arrivé à 10h du matin, la personne aurait ouvert, et puis au moins j'aurais respecté un rythme de travail décent. Donc effectivement, c'est pas...
Alexandre Jardin, vous vouliez réagir. La responsabilité de chacun dans cette histoire.
On n'est pas citoyen uniquement en votant. On est citoyen quand on consomme. Et c'est un pouvoir quotidien que l'on a. Donc ou on l'exerce ou on l'exerce pas. On peut décider d'avoir moins de pouvoir ou d'en avoir plus. Et c'est vrai qu'en consommant, on peut faire un choix. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de libraires qui organisent des rencontres. Moi, j'ai vécu de plus en plus de scènes fortes. Et je trouve que c'est aussi un endroit où parfois les écrivains se croisent. Quand j'avais sorti ce livre, un jour j'étais dans la librairie Charlemagne à Toulon. Et puis arrive tout à coup au fond de la librairie, je vois Boris Cyrulnik qui rentre. Il habite Toulon. Et moi, je savais ce que j'allais dire, mais ça m'intéressait davantage de poser des questions à Cyrulnik sur mon livre. Et donc, je lui ai demandé de venir. Il a répondu qu'il avait un dîner, qu'il pouvait rester qu'une demi-heure. Finalement, on est restés tous jusqu'à minuit dans la librairie. Et je suis reparti avec le point de vue de Cyrulnik sur mon livre. Et les gens aussi. Et finalement, c'était beaucoup plus intéressant que ce que je pensais apporter. Et ça encore, c'est quelque chose qui est possible parce que c'est un endroit bizarre. Si les auteurs habitent autour, ils peuvent venir. Je sais pas, moi, il m'est tout le temps arrivé des trucs extraordinaires quoi, là-dedans. Parce que les règles n'ont pas cours. Parce qu'on a le droit de dire à peu près tout. Essayez de faire le décompte autour de vous des endroits qui, dans cette ville, sont disponibles à une parole absolument libre. Il n'y en a pas beaucoup. Vous me regardez bizarrement.
Je vous écoute.
C'est Martin Kenen.
Non, parce que ce qui me paraît intéressant, c'est que bizarre, la parole circule, d'après ce que vous dites, à l'occasion des rencontres qui ont lieu dans les librairies, qui sont des événements très importants et qui prennent de plus en plus un caractère officiel, qui sont annoncés, qui participent de la vie culturelle française.
Dans toutes
les villes où il y a encore des librairies et des librairies indépendantes. Mais la parole circule aussi dans les livres. Et puisqu'on se pose la question, lors de ce moment de notre émission, de savoir si la librairie est un lieu de contre-pouvoir, on a eu tout un printemps politique qui n'est pas terminé. L'été sera chaud, comme disaient les Mao en 69, sans doute. Mais j'ai pensé, Manuel Cervera-Marza, lui égard à votre curiosité, en particulier pour les indignés, pour tous les mouvements de l'extrême gauche qui se réinventent, à la publication du dernier ouvrage, du Comité Invisible, par exemple, qui a eu beaucoup de mailles à partir avec la justice après l'affaire dite de Tarnac, mais aussi la réédition cette année de Mein Kampf, dans une version française revue et corrigée. Vous avez été curieux de ces publications de forces politiques qui se présentent comme des contre-pouvoirs ?
Oui, tout à fait, j'ai été curieux de ça. Et puis ces deux exemples, alors à des spectres, à des bouts opposés du spectre politique, c'est la preuve qu'un livre, ça peut être profondément subversif, que les livres, ça gêne, que les livres, ça dérange. Pourquoi est-ce que les dictatures ont parmi leurs premiers réflexes celui de faire des autodafés, de censurer les pensées hétérodoxes ? Pourquoi est-ce que dans des régimes tout à fait libéraux, quand ça gêne, eh ben, on essaye de concentrer un petit peu les forces éditoriales dans quelques mains, de standardiser un petit peu la production, de passer sous silence ou de pas donner des moyens de diffusion d'ampleur à des ouvrages qui peuvent être intempestifs. Alors quelques-uns parviennent à percer, comme ceux du Comité Invisible, mais derrière, il y a des masses et des masses de réflexions en sciences sociales, mais aussi en littérature, qui éveillent notre imagination et qui pourraient porter atteinte au fondement de l'ordre qui est le nôtre. Et pourtant, ces livres-là, eh bien, ils sont souvent absents des grandes librairies, ou bien ils sont dans le coin tout au fond, ou dans le rayon tout en bas, on les voit pas, ou alors il faut vraiment aller les commander pour le coup, et c'est désolant en ligne. On voit bien par tout ça que le livre a une puissance, vraiment une puissance intempestive. Je pense que y a quelque chose qui me revenait aussi en écoutant là ce que vous disiez, c'est... Moi, souvent, quand j'entre dans un magasin, je suis toujours un peu frileux, j'ai toujours un peu peur parce que je me dis, il y a le commerçant, il va me regarder et puis il va attendre que j'achète quelque chose. Voilà. Et des fois, ça m'arrive, j'achète quelque chose ridicule à 3 euros, mais pour ressortir en ayant fait le bon geste et en ayant bien prouvé que j'étais un bon.
Il y a les éditions Mille et Nuits qui sont pratiques pour ça.
et en fait, justement, je me disais, ça m'arrive pas dans les librairies. Dans les librairies, je rentre, j'ai toujours le sourire.
Vous parlez
de
des
la
heures et vous partez les mains vides.
Mais ça m'arrive très souvent de ressortir d'une librairie les mains vides. Ça m'arrive très très souvent. Alors c'est peut-être parce que j'y rentre tous les jours ou tous les deux jours et que si je ressortais à chaque fois avec un livre, je serais ruiné alors qu'il est. Mais vraiment, je ressens pas cette pression ou cette injonction sociale à acheter. Je pense que, et pourtant c'est un commerce, mais il y a quelque chose qui échappe justement à cette loi du marché. Il y a quelque chose peut-être de convivial en fait, de simple, de naturel.
Alexandre Jardin, la liberté, elle est aussi dans cette approche-là, c'est-à-dire de se sentir libre de ne pas acheter, même si ça ne sera pas le cas manifestement pour vous aujourd'hui, puisque devant vous, il y a un petit sachet avec un livre à l'intérieur et un ticket de caisse. Hein, ben voilà, donc c'est que voilà. Vous avez profité pour acheter quoi, d'ailleurs, on peut vous demander ?
Ah, c'est embêtant.
C'est un peu intime, peut-être. Non, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre.
Vous pouvez mentir.
Oui, c'est même pas nécessaire.
Vous pouvez dire que c'est le dernier livre de Manuel Cervera-Marzal, par exemple.
Non, c'est le dernier livre de Régis Debray, Civilisation. Et pourquoi j'ai acheté ça ? Parce que on est dans un endroit où on trouve ce genre d'objet et où on peut résister à la pensée simple. Alors que on vit dans un univers d'extraordinaire simplification, de communication politique, à base de slogans, à base de postures. Alors qu'ici, vous avez partout autour de nous, sur les murs, de la pensée complexe. de la pensée subtile qui hésite. Vous avez... les murs ne sont pas remplis de slogans. Ils sont remplis de livres. Et donc, de choses qui résistent aux slogans. C'est pour ça que ce sont des lieux absolument vitaux pour notre société. Au moment où toute la communication politique est en train d'envahir l'espace politique, où vous avez des images d'un homme qui surgit de l'obscurité, qui parle, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'un pays fasse très attention à ces endroits où la complexité vit, que ce soit à l'intérieur des livres ou dans les rencontres. Et c'est vrai que ça a dû vous arriver, lorsque vous présentez votre livre, les gens ne sont pas forcément d'accord, le ton monte, ça vit. La pensée complexe est faite d'affrontements, est faite d'hésitations, et il faut bien que ça ait lieu quelque part. Et ce quelque part, en général, ce sont des librairies. Parce qu'on peut répondre, on est à portée de baf, on est à portée...
avis aux amateurs.
On est à portée des livres. D'embrassade aussi. Avis aux amateurs.
Avis aux amateurs, bien sûr.
Mais il faut bien que la complexité de la pensée humaine et des endroits, et pas uniquement les universités, pour les piétons, pour le simple citoyen. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé souvent d'aller dans des rencontres avec des auteurs, de me mettre au fond de la salle et puis d'écouter. J'avais accès à quelqu'un qui réfléchissait, qui s'interrogeait, qui sentait, qui avait eu des sensations qui n'étaient pas des slogans, qui n'étaient pas les titres de BFM, qui n'étaient pas des choses qui tiennent en cinq mots sans verbe.
Est-ce que l'enjeu... Oui,
vous voulez réagir,
Manuel Cervera-Marzal, mais l'enjeu, c'est peut-être, il y a la littérature, il y a la librairie comme espace, donc pour dire l'indicible, pour penser l'impensable, pour embrasser, pour claquer, si je résume bien, pour repartir sans rien acheter, vraiment un espace de liberté incroyable. Mais il y a aussi donc la question du lecteur. C'est Cécile Gilbert qui est invitée ce matin dans Les Matins de France Culture, qui a rappelé cette phrase de Claudel, la littérature est là pour nous apprendre à lire. Est-ce que l'enjeu, c'est pas de continuer, plutôt que produire des chefs-d'œuvre, d'avoir des lecteurs qui soient à même d'avoir envie d'aller dans une librairie, qui aient envie de découvrir, d'être bousculé, d'être dans l'impensable. Comment est-ce qu'on peut s'adresser à ce lecteur du XXIe siècle pour ne pas le perdre et pour continuer à muscler cette pensée?
Alors c'est compliqué, hein, parce que des types d'ouvrages, il y en a de plein de sortes, des lecteurs, il y en a de plein de sortes. Moi, en venant ici, j'étais en train de regarder un petit peu, de chercher quelques informations sur les librairies, et je voyais que, selon une étude de l'INSEE, on estime que 30% des Français entrent au moins une fois dans l'année dans une librairie, ce qui est en fait à la fois plus important que ce à quoi je m'attendais, et en même temps un petit peu désolant, parce que ça veut dire que les autres n'y rentrent pas. Comment est-ce qu'on fait pour attirer des lecteurs vers les livres? Bon, moi, en tant que philosophe et sociologue, il y a peut-être un principe que je me fixe, c'est celui d'éviter d'avoir une écriture trop jargonneuse, trop standardisée, trop érudite. Il y a bien sûr un impératif de rigueur, d'analyse, de rationalité dans tous les ouvrages des sciences sociales, mais peut-être qu'aujourd'hui, ces sciences sociales sont comme ça en manque d'audience ou vis-à-vis du grand public, on va dire, c'est que elles ont tendance à trop se refermer sur elles-mêmes. Alors, comme des auteurs comme Yvan Jablonka, Didier Ribon, ou je prétends pas me comparer à eux, mais comme ce genre d'auteur qui, voilà, c'est fait, donc l'inconscient a parlé.
Ça se passe souvent à la radio.
Vous perturbez beaucoup.
Dans des librairies, ça se passe comme
ça. Yvan Jablonka, Didier Ribon, qui adaptent par Thomas Stormeyer bientôt.
Sont des historiens et des sociologues qui font vraiment attention à la forme, au style, afin justement de transgresser cette frontière entre littérature et sciences sociales qui, à mon sens, a fait plus de dommages que de bénéfices aux sciences sociales.
On aurait pu citer Patrick Boucheron aussi, qui s'indiscipline.
Tout à fait.
Mais d'un tout petit mot pour conclure, puisque cette question, c'était d'entraîner dans la lecture. En préparant l'émission, je me suis replongé chez Voltaire dans l'horrible danger de la lecture, où il dit que non seulement la lecture communique des pensées, elle réveille le génie créateur, mais surtout, eh bien, la lecture entraîne horreur la lecture. Ce serait ça le grand danger ?
Colossal.
Alexandre Jardin ?
Colossal, mais quand même, il faut, je pense, mettre en place autour de nos librairies et de nos bibliothèques, il faut mettre en place des grands programmes citoyens. Et quand on a construit, je dis on parce qu'on a été très nombreux à construire ça, avec un énorme collectif d'écrivains qui a soutenu ce programme, quand on a construit le programme Lire et faire lire, On a décidé d'embarquer les plus de 50 ans dans les écoles maternelles, les écoles primaires, pour transmettre le plaisir de la lecture. Aujourd'hui, les gens qui font ça en France, dans les 100 départements, font lire chaque année et lisent des histoires à 750 000 enfants. On est en train de créer une vague de fond dans l'ensemble de nos territoires, dans l'ensemble de nos quartiers, de mobilisation, d'une alliance entre les générations autour du livre. J'invite tout le monde à préparer la rentrée. Engagez-vous dans votre quartier. Vous allez sur lire-et-faire-lire.org. Si on ne le fait pas, on n'aura pas de génération montante lectrice. Donc, ça démarre à l'école maternelle et l'école primaire, cette transmission, et on prépare les futurs lecteurs qui rentreront dans cette librairie. Mais il faut le faire. Il n'y a aucune fatalité. Si on passe de 20 000 bénévoles à 100 000 dans les 5 ans à venir, on fera une nation de lecteurs. C'est à notre portée.
Merci. Alexandre Jardin, merci beaucoup aussi à Manuel Cervera-Marzal. Et bien, puisque nous sommes dans le cadre d'une journée pour le livre à l'antenne de France Culture, on se mobilise, on s'engage à la lecture, entraîne la lecture. On va commencer avec les invités de Ping Pong, Gérard Lefort, entre autres, qui parle de son livre de l'été.
Fairy Tale, c'est chez POL et ça raconte l'histoire d'une famille très moyenne française, tous ses soucis et ses tracas. Et en sous-main, Hélène Zimmer, j'ai pas dit le nom de l'auteur, Hélène Zimmer raconte comment cette famille qui est embourbée dans les ennuis pourrait un jour voter Front National et pourquoi.
Le livre que vous voudriez rapper.
Topographie de Malcolm X.
Le livre à lire au bord du Pacifique.
Je dirais Traité du funambulisme, ça fait rêver, c'est extraordinaire.
Un livre que vous avez appris à aimer.
L'amant de Lady Chatterley. Parce que je ne pensais pas que ce serait le genre de littérature qui me correspondrait. Très psychologique, très nuancé, très intérieur. Et puis finalement, j'ai trouvé que c'était un livre qui parlait avant tout de la nature et de l'outrage fait à la nature et de la souffrance d'une femme qui incarnait celle de la nature.
Le livre qui vous fait saliver.
Les Contes de la Bécasse, de Maupassant. Ouais.
Le livre à lire cet été.
Un très gros livre qui vient d'être republié et qui s'appelle Simplicius Simplicissimus de Grimmelhausen et qui est un livre qui a été écrit au XVIe siècle qui raconte la guerre de 30 ans. Qui est la guerre qui a ravagé l'Allemagne et qui est l'équivalent du Don Quichotte espagnol de Cervantes pour l'Europe centrale. Voilà. Et que c'est un des plus beaux livres et des plus étonnants que j'ai jamais lu. C'est à la fois drôle, brutal, philosophique, sanglant. Je pense qu'on peut passer l'été à lire ça.
Le livre à lire avec un verre de vin.
Un livre sur le vin, sans doute. Donc je vais dire, parce que j'adore ce qu'il écrit, et c'était le livre qui m'a vraiment bouleversée au niveau du vin, c'est « Les aventures sur la route du vin » de Kermit Lynch. Et en fait, chaque chapitre, ça parle d'une région, et en fait, t'as juste envie de boire le vin de cette région au fur et à mesure que tu lis les chapitres du livre.
En remontant le courant à l'instant, Laura Vidal, Jean-Luc Fromental, Pierre Gagnère, Sylvain Tesson, Dizis La Peste et Gérard Lefort étaient interviewés pour la bibliothèque idéale des invités de ping-pong par la merveilleuse Anna Baron.
Manuel Cervera-Marzal, Alexandre Jardin, vous êtes resté avec nous. On va profiter des quelques petites minutes qui nous restent pour parler justement aussi peut-être des livres que vous nous conseilleriez. Manuel Cervera-Marzal, par exemple, le livre qui vous fait frémir et que vous liriez cet été avec un verre de vin pour essayer de regrouper un petit peu tout ce qu'on vient d'entendre. Ce serait quoi ? C'est pointu, hein, je sais, mais je sais que vous en êtes capable.
Je vais dire quelque chose qui fait intelligent. Un classique de José Saramago, L'aveuglement. Une fable magnifique sur une ville touchée par une épidémie de cécité, où on finit par découvrir que les véritables aveugles ne sont peut-être pas ceux que l'on croit.
Allez, immense écrivain, prix Nobel de littérature, écrivain portugais, Saramago, on peut tout lire hein, aussi, on aime le style. Enfin, voilà, je me permets d'abonder un peu dans votre sens, parce que c'est un de mes écrivains préférés. Voilà.
C'est magnifique et c'est ponctué de petits dictons. Alors, il y en a tellement, il y en a à chaque page, que je ne sais pas s'il les invente ou s'il est allé puiser dans un manuel, un ouvrage, un recueil de dictons, mais c'est pas artificiel. Ils viennent parfaitement illustrer cette histoire de personnages qui deviennent tous un à un aveugles. Et c'est magnifique. On est complètement emporté par le livre. Enfin, j'ai été emporté par le livre.
Thomas Beau, notre réalisateur. Ça te recommande la lucidité, entre autres. À vous, Alexandre Jardin, une lecture donc estivale qui ne serait pas Régis Debray, achetée aujourd'hui à la librairie de Paris.
Un livre absolument jubilatoire. qui est probablement un des livres que j'ai le plus offert, qui s'appelle Les Découvreurs, de Daniel Burstein, qui était le bibliothécaire de la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Les Découvreurs racontent l'histoire de tous les hommes et les femmes qui nous ont appris à penser autrement. C'est un bouquin jubilatoire. Mais absolument, c'est un livre que je n'arrête pas de lire depuis 10 ans, que je reprends sans cesse. C'est un éloge de la pensée différente, de tous les êtres humains qui nous ont appris à déplacer notre mode, notre point de vue. C'est publié chez Bouquin. C'est épais, on peut l'embarquer en vacances.
Ça résiste aux taches de vin en plus.
Oui.
Les couvertures.
Oui, oui.
De
ça résiste au vin. Oui. C'est pas mal.
En un mot, Martin, votre livre pour cet
si
été.
Si on parle de vin, moi, je pense au seul roman de Robert Desnos, Le Vin est tiré, où il est plutôt question d'opium, qui est un roman formidable. Mais puisque l'été, on aime bien faire des insomnies volontaires pour pouvoir lire, je conseille Le Songe d'Anton Saurus d'Aram Kebabjian, qui raconte justement et avec quel style une insomnie. C'est publié au Seuil.
Hervé Gardette.
Moi, j'hésitais entre Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë pour le classique et Mets le feu et tire-toi de James McBride,
James Mac, on vous recommande.
Chez Gallmeister, voilà, qui écrit, qui raconte Brown. L'histoire de James Brown. C'est magnifiquement écrit, c'est passionnant.
Et vous, Mathilde ?
Alors moi, exceptionnellement, j'ai parlé de La Toile de Sandra Lucbert. C'est passé donc ce matin dans les matins de France Culture, parce que vraiment, chez Gallimard, pour apprendre des choses sur les hackers, sur l'aspiration des données, tout en s'éclatant avec des liaisons dangereuses au XXIe siècle, je le recommande. Mais moi, je voudrais recommander une revue qui va vous amener vers d'autres livres. Il s'agit de la revue trimestrielle de notre camarade François Bunel de la Grande Librairie sur France 5, America. On parle des États-Unis. On parle de Trump toute la journée, mais parons des écrivains américains. On a Don DeLillo, on a Chimamanda Ngozi Adichie, Douglas Kennedy et Trump par le dessinateur Crumb. Ce sera, je crois, en librairie demain. Ping-pong. C'est presque fini. C'est vraiment fini, dit Thomas Beau.
Merci beaucoup à tous deux et à tout et bien notre public et à la librairie de Paris qui nous a accueillis.
La librairie de Paris, voilà, tout le personnel, Géraldine Mosservet, Jean-Christophe Millois notamment, dans cette librairie. Merci à qui d'autre ?
Merci Jean-Christophe. Au moment d'Amazon, je l'ai senti tendu, Jean-Christophe.
On remercie les équipes peut-être, non Mathilde Serrel ?
Bien sûr, le ping-pong ou le ping-poudre, ce soir exceptionnellement, donc en fusion avec le grain à moudre, est un hybride radiophonique qui se crée en équipe et quelle équipe ? Fanny Richer, Céline Leclerc, Louise Fuseau, Cyril Baer, Antoine Tricot, à la réalisation Lise-Marie Barré, donc côté grain à moudre, Aïssette Wendoy, Jeanne Aléo, Séam Boutata et Anna Baron, réalisation Thomas Beau, côté ping-pong à la technique et pour tout le monde, c'était Georges Thau, Christophe Michou, Thomas Robin et Franck Malabry.
Et demain, dans du grain à moudre, puisque vous retournez à vos quartiers, dans votre rayon.
Demain, ce sera le Club des idées. Nous ferons une sorte de best-of de ce qu'a été l'année politique. Il y a beaucoup de choses à dire.
Et demain, dans Ping Pong, on sera entre le sport et l'aventure avec les Hommes du Feu, Roche Dizem pour son nouveau film et Lilian Thuram qui sera à ses côtés.
Voilà, mais tout ça, c'est demain. Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Et France Culture, il est quelle heure ?
Il est 20h26 et dans quelques instants, nous allons relire la pensée de Michel Rocard grâce à Voix Nue.